notre parcours spirituel dans la recherche de Dieu. Cherchez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. 2:4-29 Préface. Je suis loin d'être la personne la plus brillante du monde, ce dont mon parcours ci-dessous témoigne malheureusement. Dans mon premier emploi après l'université, j'étais dans une classe avec environ 15 autres jeunes diplômés. J'étais l'un des moins intelligents. Ils terminaient leurs travaux de laboratoire 4 à 5 heures avant moi. Ils travaillaient 8 heures par jour, moi 13. Ce qui me manquait en intelligence, je le compensais par une obstination butée, un refus entêté d'abandonner. Le Seigneur m'a dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles il m'a choisi. Il savait que le chemin serait rude, mais il savait que je n'abandonnerais jamais. L'autre raison, c'est qu'il savait que j'avais la force de dire et d'écrire tout ce qu'il commanderait, si impopulaire que puissent être ses paroles. Le récit de mes erreurs au cours de ce parcours est présenté ici, et indirectement dans comment recevoir la puissance transformatrice de Dieu, afin que vous évitiez les graves erreurs que j'ai commises, afin que vous puissiez avancer plus vite vers le royaume. Étudiez et retenez les leçons de mes erreurs, et vous ne tomberez pas dans les mêmes tromperies. La plus grande erreur que j'ai commise a été de maigrir de mon affliction, sans comprendre que la souffrance imposée surnaturellement est une partie nécessaire de la croix. Le Seigneur m'a dit qu'avec ce site web désormais en ligne, il peut mettre son peuple sur la croix sans qu'il craigne d'avoir, d'une manière ou d'une autre, échoué ou été trahi. Souvenir de la petite enfance, mes 10 premières années se sont déroulées principalement dans une petite ville du sud-ouest, où je fréquentais une assemblée méthodiste. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 6 ans, je n'ai plus jamais revu mon père. Je me souviens de ma confirmation et d'avoir appris les 10 commandements et la règle d'or. J'avais un exemplaire de The Golden Children's Bible, une version pour enfants toujours disponible, avec beaucoup d'images des événements qu'elle raconte, dont j'aimais énormément la lecture. Quand j'ai eu 10 ans, nous avons déménagé à Oak Ridge, dans le Tennessee. Je me souviens avoir lu de nombreuses petites biographies orange de l'école primaire sur de grands hommes, George Washington, Thomas Jefferson, Thomas Edison, George Washington Carver, Abraham Lincoln, etc. Ces lectures ont fait naître en moi un fort désir de faire quelque chose de bon de ma vie. J'y ai rencontré celle qui allait devenir ma femme en 6e. Quand j'avais environ 14 ans, ma cousine mariée a donné naissance à un enfant mort-né. On m'a demandé d'être porteur aux funérailles. Lors du service à la maison de réunion, le pasteur déclara que l'enfant mort-né était destiné à aller en enfer, n'ayant pas été baptisé avant sa mort, et il demanda à tout le monde de prier pour que Dieu fasse une exception, même si la Bible, selon leurs interprétations luthériennes, disait que l'enfer était la sentence de tous les non-baptisés. J'étais stupéfait d'une telle déclaration et en état de choc. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi injuste, et j'étais en colère que ma cousine subisse un tel chagrin en plus de la mort de son enfant. Bien que j'aie eu envie de me lever et de hurler que ce pasteur était fou, je suis resté assis silencieux dans ma détresse. Quand le service fut terminé, je commençais à porter le cercueil avec d'autres, tandis que l'organiste jouait lentement, sur un ton de cloche. Jésus même, oui je le sais car la Bible me le dit. J'étais si bouleversé que je pouvais à peine marcher, encore moins porter le cercueil. La cruauté de leur Dieu dépassait ma capacité à l'accepter, et j'étais tourmenté par un Dieu si injuste qu'il punirait des enfants innocents pour une ridicule formalité technique. Aujourd'hui, bien sûr, je comprends que le problème n'est pas Dieu, mais les interprétations erronées et tordues des Écritures par de prétendus experts de la Bible. Voir Is There Hope for All au sujet des enfants, et voir les détails sur la façon dont Lud ne croyait pas au livre biblique de Jacques, des Hébreux et de l'Apocalypse, et aussi qu'il était violemment antisémite. Pour ce qui me concerne, je n'étais pas un enfant innocent. En fait, j'étais déterminé à goûter à tous les fruits défendus auxquels les adultes semblaient pouvoir participer, mais qui étaient interdits aux enfants. Je me souviens avoir été très curieux sexuellement à l'âge de 5 ans et avoir fumé ma première cigarette à 6 ans, je n'avalais pas la fumée. J'ai grandi au milieu des jurons et je parlais de la même manière, mais je n'étais pas non plus un marginal total. J'étais Eagle Scout à 12 ans. Je continuais d'aller aux réunions méthodistes par obéissance aux souhaits de ma mère. Cependant, je n'y ai jamais entendu un mot qui m'intéresse, que ce soit à leur école ou au service d'adoration. Vers l'âge de 14 ans, dans l'école sectaire du premier jour, à laquelle j'assistais parce que plusieurs jolies filles y étaient, je faisais du bruit. L'enseignant de la secte s'arrêta, me désigna pour mon mauvais comportement, et se mit aussitôt à prier à voix haute pour que Dieu veuille bien me discipliner. C'était très embarrassant, et j'ai mal supporté leurs prières adressées à un Dieu qu'ils pouvaient, selon eux, appeler à la demande. Je ne suis jamais retournée à leur école sectaire du premier jour. Avec ces deux incidents en toile de fond, j'ai commencé à me demander s'il existait vraiment un Dieu. Je me mis à me poser des questions telles que, si nous sommes des êtres créés, qui a créé Dieu? Et si personne n'a créé Dieu, alors peut-être que personne ne nous a créés, peut-être que nous avons toujours existé, comme les gens disaient que Dieu avait toujours existé. Je pouvais raisonner qu'il pouvait y avoir un Dieu, mais je pouvais aussi raisonner qu'il pouvait ne pas y avoir de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, je peux voir l'ordre de la création, l'harmonie, comment tout s'imbrique, avec des preuves massives qu'un plan directeur a été mis à exécution pour créer l'univers physique, et je peux voir comment l'univers et nous n'aurions pas pu simplement évoluer par accident ou par hasard, car une telle évolution aléatoire aurait laissé d'énormes preuves de milliers d'échecs aléatoires de l'évolution, dont il n'existe pas la moindre trace. Je me souviens, bien plus tard, avoir lu dans Science Digest que la probabilité que l'œil humain seul ait simplement évolué était la même que celle de trois singes tapant sur les touches de leur machine à écrire pour reproduire parfaitement une bibliothèque de 20 000 livres. Vers l'âge de 15 ans, j'ai reçu un abonnement offert au magazine Playboy. Je ne me contentais pas de regarder les photos, je lisais aussi religieusement le Playboy Advisor. J'étais attirée par la philosophie Playboy, y croyant entièrement de bout en bout. Ainsi, je suis devenue agnostique, penchant du côté de l'athéisme. J'ai cessé d'aller au service méthodiste à ma grande joie, et j'étais heureux d'expliquer à quiconque pourquoi. J'admettais qu'il pouvait y avoir un Dieu, mais je pensais qu'il était tout aussi probable qu'il n'y en ait pas. Je n'en savais rien avec certitude, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais je savais avec certitude que la religion ne m'apportait rien d'autre que du chagrin et de l'ennui, leur Dieu ne m'était donc d'aucune utilité. Vers 18 ans, je me souviens d'au moins une expérience où je prévoyais de mener à bien une escapade sexuelle, et j'ai soudain eu une vision, avec une compréhension très claire et convaincante de la raison pour laquelle je ne devais pas poursuivre mon projet. Quand cela s'est terminé, je me souviens avoir pensé « Eh bien, c'était certainement un argument parfaitement formulé pour que j'abandonne mon plan, je me demande d'où cela vient, sans aucune idée. Mais j'ai continué malgré tout, pour mon regret aujourd'hui. Je comprends maintenant que c'était le Christ, la lumière en moi, qui me reprenait. Si dans ma jeunesse, on m'avait appris à m'attendre à ce que la lumière du Christ en moi me reprenne périodiquement, j'aurais probablement reconnu la source et j'aurais été bien plus attentif. Cela m'amène à me demander dans quel genre de monde nous vivrions si, dès le plus jeune âge, on nous apprenait à nous attendre aux reproches convaincants de Dieu. Le monde serait peut-être un endroit bien meilleur. Ma femme et moi avons fréquenté l'université du Tennessee à Knoxville, nous mariant en troisième année et ayant notre premier fils en quatrième année. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai poursuivi mes études pour obtenir un master en commerce. Mon premier emploi fut chez IBM en 1965 comme ingénieur système, puis je suis devenu vendeur, puis chargé de support marketing au siège. Au fil de plusieurs postes, nous avons vécu à Atlanta, Géorgie, Columbus, Géorgie, Boulder, Colorado, et enfin Los Gatos, Californie. Partout où nous avons vécu, nous avons beaucoup aimé, en particulier les activités de plein air disponibles, où l'on pouvait apprécier la beauté de la nature. J'ai quitté IBM et plusieurs autres entreprises parce que les produits que je devais représenter et promouvoir n'étaient pas à la hauteur des affirmations de l'entreprise à leur sujet, les produits ne tenaient pas leurs promesses, et les entreprises refusaient de modifier leurs allégations. J'ai quitté une autre société lorsqu'on m'a demandé de violer l'esprit du contrat, que je venais de passer 6 mois à renégocier à notre avantage, l'encre du contrat n'était même pas sèche. Mettre en doute mes doutes sur l'existence de Dieu, après avoir déménagé sur la côte californienne en 1976, j'ai commencé à voir dans la création un ordre bien trop beau pour être le fruit du hasard. Je me souviens d'un soir, debout sur la plage, regardant le soleil se coucher sur l'océan. Tout était calme, paisible, serein, parfait et d'une beauté indicible. Le ciel coloré, l'océan immaculé, la côte escarpée, les vagues intemporelles se brisant sur le rivage, les oiseaux marins planant, le soleil plongeant dans la courbure de la terre. Tout cela était trop majestueux pour n'être qu'un accident aléatoire. Cette beauté m'a frappé, et j'ai commencé à remettre en question mes doutes sur Dieu. J'avais alors 3 problèmes. 1. Une obsession persistante à regarder d'autres femmes. 2. Perdre mon sang-froid en essayant de contrôler mon fils adolescent. Et 3. Malgré le fait d'avoir une maison au sommet des montagnes de Santa Cruz, dans les Sequoias, avec vue sur l'océan, de partir en vacances à Hawaï 1 fois par an, de conduire de belles voitures et d'avoir un bon revenu, j'étais misérable parce qu'il me semblait qu'à chaque changement d'emploi, même si l'argent était meilleur, le travail était globalement pire. Je me souviens avoir pensé que j'étais plus heureuse à l'université, dans un logement d'étudiants mariés, vivant avec 20 dollars par semaine pour l'épicerie et les dépenses diverses, très pauvre mais plus heureux. J'étais brisée, mes rêves de bonheur étaient anéantis. Je cherchais un changement. Un jour, il se trouva que je tombais sur l'émission télévisée Donahue, où il interviewait Raymond Moody, l'auteur du livre Life After Life. Moody décrivait l'expérience commune d'une vingtaine de personnes qui étaient techniquement mortes sur la table d'opération, sans signe de vie pendant jusqu'à 20 minutes, puis avaient été réanimées de façon inattendue. À partir des dossiers hospitaliers, il a retrouvé ces personnes et les a interrogées. Elles décrivaient toutes s'être élevées hors de leur corps sur la table d'opération, observant les efforts des médecins pour les réanimer, puis traverser un tunnel sombre vers une lumière vive au bout. À leur arrivée dans la lumière, elles décrivaient un lieu incroyable de couleurs vibrantes, de son magnifique, de paix et d'amour, la rencontre d'une figure semblable au Christ, qui rayonnait d'amour vers elles, et communiquait sans paroles seulement par échange de pensées. Cette figure procédait alors à une revue de leur vie, avec l'accent commun sur le fait que l'apprentissage, la connaissance et l'amour étaient les seules choses importantes dans la vie. Cette compréhension accompagnait la revue des expériences de leur vie, soulignant surtout ce qu'elles avaient bien fait dans l'amour, mais indiquant aussi certaines de leurs erreurs. On leur disait ensuite qu'elles devaient retourner dans leur corps. Presque toutes étaient profondément réticentes à revenir, mais elles n'avaient pas le choix. Après leur retour, leur vie avait changé à partir de ce moment-là, valorisant la famille, l'amour, la bonté, le pardon et Dieu. Elles n'en parlaient généralement à personne, craignant que les autres ne les prennent pour des fous. Je suis sortie acheter le livre. Pour la première fois, j'avais, moi, des preuves convaincantes qu'il existait vraiment un Dieu. J'ai donc commencé à lire davantage au sujet de Dieu. Parmi ces livres figuraient des ouvrages de Swami Satchidananda et de J. Krishnamurti. Ces livres parlaient d'une sainteté requise et d'une pureté dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Krishnamurti disait que toute pensée était inquiétude, un manque de foi, et que, par la méditation, on pouvait arrêter le cerveau pour parvenir à la paix, ce qu'il disait avoir fait. Tous deux parlaient, contre la colère et de la nécessité d'une vie désintéressée, ascétique, renonçant aux plaisirs et aux possessions matérielles du monde, en expliquant pourquoi, pour être libre de la possession par les possessions et du fait d'être le serviteur des plaisirs, ils présentaient la méditation comme la clé du changement. Ces livres parlaient d'amour, définissant l'amour comme donné sans attendre de retour. Cette définition m'a fait réaliser que je n'avais jamais donné d'amour, même à ma femme. Ces enseignants orientaux parlaient aussi de la nécessité d'abandonner toute chose pour trouver Dieu, affirmant que si Dieu décidait qu'il aimerait vous avoir comme l'un de ses disciples dévoués, et si votre femme ou vos enfants se mettaient en travers de votre progression, ils vous seraient enlevés, même par la mort. Ils enseignaient que chercher Dieu est un voyage, non pas quelque chose d'accompli immédiatement, mais le plus grand voyage de la vie. Ces livres m'inspiraient, j'étais enthousiaste quant aux possibilités, et je commençais à lutter pour méditer. Dans cette région, beaucoup de personnes sont fascinées par la beauté de la nature. Alors que la beauté de la nature autour de moi était glorieuse, j'ai compris que c'était comme être fasciné par des empreintes dans le sable. Je ne me contentais pas d'examiner l'empreinte, je voulais trouver et connaître l'être, bien plus complexe et glorieux, qui avait laissé ses empreintes. À cette époque, fin 1978, ma femme, encouragée par le fait que je commençais une recherche spirituelle, me suggéra de lire aussi son exemplaire du Nouveau Testament. Bien que très sceptique envers le christianisme, je me dis, pourquoi ne pas lire ce qu'ils ont à dire, cela ne peut pas me faire de mal. En lisant le Nouveau Testament, j'ai été stupéfait de voir à quel point les enseignements de Jésus étaient merveilleux. Dans l'Évangile de Matthieu et le Sermon sur la montagne, Jésus parlait d'une religion qui ne ressemblait même pas vaguement à quoi que ce soit que j'avais vécu dans les réunions méthodistes, ni à aucun soi-disant chrétien que j'avais rencontré ou dont j'avais entendu parler. Et Jésus s'exprimait dans un langage si simple, clair, concis, facile à comprendre, qu'il était manifestement supérieur à tout ce que j'avais jamais lu. Je me souviens particulièrement de ses enseignements sur le péché de la colère, le fait de commettre l'adultère dans son cœur rien qu'en regardant une femme avec convoitise, l'exigence d'aimer même ses ennemis, de tendre l'autre joue, de donner à tous ceux qui demandent, d'être parfait, de compter les coups avant de commencer, de perdre sa vie pour la sauver, de tout abandonner, même maison, femme et enfant, et de haïr sa propre vie. Les enseignements du Christ décrivaient une exigence de sainteté et de pureté qui dépassait tout ce que j'avais lu. Le Christ avait clairement défini les détails d'une vie pieuse et combien ma vie en était éloignée. Je savais que c'était Jésus que je devais, d'une manière ou d'une autre, suivre. Je lisais au sujet de la croix du renoncement à soi et de la nécessité de la prendre chaque jour pour le suivre, mais je n'avais aucune idée de la manière de le suivre et de porter une croix. Une fois que j'ai commencé à croire qu'il y avait un Dieu, je savais que je devais découvrir comment être agréable à mon Créateur. J'admirais et respectais énormément la vie de Jésus, qui me montrait et m'enseignait la piété, et me disait que je devais devenir pieuse aussi, parfait comme mon Père dans les cieux. Je raisonnais que s'il nous disait que nous devions être pieux et parfaits, il devait y avoir un moyen d'obéir à ses instructions. Pendant des années, il m'était arrivé d'être attiré à l'occasion par les émissions télévisées de Catherine Kuhlman et d'Oral Robert, dans un état d'étonnement dégoûté. Je savais que quelque chose n'allait pas chez eux, mais il y avait une légère teinte de vérité dans ce qu'ils disaient et faisaient. Je me souvenais avoir répété des centaines de fois la prière du Seigneur, et en particulier les mots « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ma volonté ne m'avait mené nulle part vers le bonheur ». Il m'est venu à l'esprit que si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie, il pourrait prendre les décisions, il pourrait me diriger, et alors je serais heureux. Jésus avait dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père, je ne dis que ce que j'entends dire au Père ». Je savais donc que faire sa volonté était possible, mais bien sûr je ne savais pas comment. Et tandis que beaucoup pensaient faire sa volonté, lorsqu'on les questionnait de près, ils admettaient qu'ils suivaient encore leur propre esprit, avec présomption ce qu'ils appelaient la foi astérisque, que ce qu'ils faisaient était acceptable pour Dieu. Cela m'a conduit à faire à Dieu l'offre et la promesse suivante, s'il me montrait qu'il était là, je consacrerais le reste de ma vie, avec mes meilleurs efforts, à trouver sa volonté pour moi puis à la faire. Quoi qu'il arrive, même si cela signifiait devenir un prédicateur télévisé comme Oral Robert, ce que je détestais et considérais comme la pire chose possible qu'il puisse me demander. Astérisque, la foi consiste à entendre, de l'intérieur, la parole de Dieu et, y croyant suffisamment comme venant de Dieu, à lui obéir. Rome 10, 8, 10, 17. J'ai découvert que Dieu existait réellement quelques jours plus tard. Il y a 38 ans, je faisais du jogging sur une route de montagne isolée et tout en pensant à Dieu, en m'attendant même à ce que quelque chose se produise, j'ai soudain été submergé par une vague de sensations dans tout mon corps, que je n'avais jamais ressenties auparavant. C'était très agréable et intense. J'ai pensé que c'était ma réponse. J'étais accroché. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une autre réponse à ma prière, avec une preuve si forte que ma faim de justice et de son approbation me ronge encore l'estomac spirituel. Une preuve qu'il m'a dit qu'il donnera à quiconque le demande humblement, mais une telle humilité n'est possible qu'après une expérience qui brise la vie. Et inutile de dire que ce fut une expérience qui changea ma vie. J'ai commencé à effectuer immédiatement certaines réformes dans ma vie. Sachant qu'il y avait un Dieu qui voyait tout, j'ai du mieux que je pouvais cesser de mentir, d'exagérer mes notes de frais, de lire Playboy ou de le feuilleter, et j'ai annulé mon abonnement, de flirter ouvertement, d'arranger mes déductions d'impôts sur le revenu, etc. Je craignais Dieu et je me détournais du mal autant que je le savais et que j'en étais capable à ce moment-là. Je suppose que j'avais un avantage sur beaucoup de soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Je n'étais pas habitué à pécher délibérément sous le regard de Dieu, en présumant qu'ils sont favorisés par lui parce que de faux prophètes les ont convaincus qu'ils iraient au ciel tout en continuant de pécher. Je craignais ce Dieu qui voit et entend tout, même nos pensées. Ma crainte rendait relativement facile le fait de me détourner du mal, du moins du mal commis par mes mains et mes pieds. Les maux de ma langue et de mon cœur n'étaient pas sous mon contrôle au point de pouvoir les arrêter. Alors commença véritablement le parcours de nombreuses années. Quelqu'un de mon bureau m'invita à aller avec eux voir un révérend astérisque à Kawaklan, qui prêchait que Dieu voulait nous rendre riches. Cela heurtait les enseignements de Jésus dont je me souvenais, mais ils insistèrent et j'y allais. J'étais choqué. Voilà un ministre me disant littéralement de tendre la main au ciel, d'attraper Dieu par l'orteil et de dire « Donne-moi ». Et il disait que Dieu était là pour être notre serviteur, mais que nous devions exiger qu'il nous donne tout ce que nous voulons, tandis qu'il paradait sur scène avec ses bagues en diamant et son costume à 1 000 $. Le mal en cet homme m'effrayait. Je me souviens avoir couvert mon cœur avec le Nouveau Testament que ma femme m'avait donné à lire et avoir prié Dieu de fermer la bouche mensongère de cet homme, tout en me protégeant du mal qui dégoulinait de ses lèvres. Les évangiles de prospérité, plutôt que l'évangile de la pureté par la croix, sont une abomination. Avant l'honneur des richesses spirituelles ou matérielles, le moindre des trésors, ta nature égoïste et pécheresse doit être crucifiée. Astérisque, il est triste de constater qu'aujourd'hui le mot « reverend » au sens de « digne d'être révéré », c'est-à-dire « digne d'adoration », ne fait plus que susciter les rires de commentateurs avisés, au lieu de ceux de toute la population. J'ai supposé que les échecs de mes expériences chrétiennes provenaient du fait que la secte dans laquelle j'avais grandi n'était pas une secte fondée sur la Bible et croyant la Bible astérisque alors que beaucoup l'étaient. Il y avait un institut biblique à environ 15 000 de chez moi, alors je suis allé leur rendre visite. Je rendis visite au président, lui offrant mes services comme conseiller informatique en échange de ses conseils sur les questions spirituelles. Me renseignant pour savoir si je pouvais m'inscrire à l'Institut biblique, il m'informa que, pour la première fois de leur histoire, Ils avaient une liste d'attente de candidats de plus de 100 personnes. Je comprends maintenant que c'était l'œuvre du Seigneur, pas une coïncidence, pour m'empêcher d'entrer à l'Institut biblique, pour m'empêcher d'être endoctriné par leurs faux enseignements répétitifs. Il me suggéra de visiter l'Assembly of God locale. Astérisque, beaucoup de sectes fondamentalistes croient que la Bible est la source de la foi et le fondement de la vérité, la regardant aussi comme leur juge, règle et guide. Pourtant l'Église, le corps du Christ composé des vrais croyants, est la colonne et le fondement de la vérité, et le Christ lui-même est la source de la foi. De telles sectes fondamentalistes ont substitué la Bible au Christ, leur foi est fondée sur la Bible, non sur l'écoute de la parole de Dieu au-dedans, comme Paul l'a défini. Elles appellent même la Bible la parole de Dieu, le nom du Christ. Voir mi ship ne mi voice et does Christor scripture rule, pour en savoir plus. À la recherche de la bonne secte à laquelle appartenir ainsi, le dimanche suivant, ma famille et ma femme et nos deux filles, âgées de 14 et 9 ans, et moi sommes allées à l'Assembly of God. J'étais très enthousiaste à l'idée de rejoindre un groupe de chercheurs sérieux, espérant trouver la volonté de Dieu. Il y eut un appel à l'autel, et j'y répondis avec mes deux filles. Après le service, le pasteur vint se présenter. Je lui dis, « Je suis un chercheur de Dieu ». Il répondit qu'il n'y avait pas besoin de chercher, tout avait déjà été fait, il n'y avait plus rien à chercher. Je le regardai comme s'il était fou. Il répliqua, « C'est écrit ici, dans la Bible », en montrant son côté et en citant Rome 19:10. Je fis alors un vœu envers moi-même sur le champ, plus jamais personne ne pourrait m'intimider en citant la Bible, ce n'était qu'un seul livre astérisque, et je jurai de me familiariser tellement avec ce livre que je n'aurai plus jamais de questions sur le sens de quoi que ce soit qui s'y trouve. Nous avons quitté cette secte pour ne jamais y retourner. Astérisque, dans mon premier emploi après l'université chez IBM, on m'avait appris à apprendre à partir de centaines de manuels qui remplissaient une pièce entière, non pas à apprendre les détails, mais à apprendre les sujets traités et à se souvenir où toutes les réponses pouvaient être trouvées, dans quel manuel, lorsque c'était nécessaire. Ainsi, apprendre un seul livre me semblait une tâche triviale. Je ne savais pas à quel point ce seul livre pouvait être cryptique, en particulier les lettres de Paul, au sujet desquelles Pierre nous avertit qu'elles sont difficiles à comprendre et souvent tordues et déformées, pour leur propre destruction, nous avertissant en outre de ne pas nous laisser entraîner par l'erreur des méchants, exactement ce que toute la chrétienté a fait, s'égarant par la tolérance du péché et de la méchanceté en elle-même, jusqu'à devenir 41 000 sectes déficitaires différentes. Récemment, j'ai reçu de la parole du Seigneur au-dedans les confirmations suivantes sur la façon dont la Bible est réellement cryptique, Écriture, les mystères divins de Dieu, la Bible entière est une parabole. Aujourd'hui, je repense souvent à l'expérience de l'Assembly of God, en réalisant maintenant que ce pasteur se tenait au début du chemin du voyage vers Dieu, en disant « Rebroussez chemin, vous êtes juste simplement en croyant », ce qui est encore pire que les pharisiens que Jésus critiquait en disant « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens prétendant hypocrites. Car vous fermez le royaume des cieux aux hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient y entrer. » Matthieu 23:13. Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché ceux qui entraient. Luc 11:52. Aujourd'hui, les soi-disant prédicateurs chrétiens, bien moins justes que les pharisiens, qui au moins essayaient d'enseigner aux autres à obéir à la loi, se tiennent au début du chemin vers la justice en disant « Arrêtez, vous avez tout fait. Ne cherchez pas, n'obéissez pas, ne craignez pas, ne vous efforcez pas. » Malheur à eux, car ils sont pires que les pharisiens qui ont tué le Christ. Ils nous disent de ne même pas commencer à chercher ni de poursuivre l'obéissance qui mène à la justice, alors que chercher Dieu est le but même de la vie. Je me mis à écouter la radio chrétienne, à regarder la télévision chrétienne, et à lire tous les livres chrétiens que je pouvais me procurer. Je cherchais le feu, mais je ne lisais que de la fumée. Comme le Seigneur me l'a dit plus tard, je lisais au sujet de gens qui se disputaient sur les enveloppes sans jamais avoir découvert le grain. J'écoutais la radio toute la journée et au milieu de la nuit. Un jour, j'entendis un prédicateur déclarer « Si un péché est acceptable, alors deux le sont, puis trois, puis des milliers, etc. » Il ne doit donc y avoir aucun péché, et quand Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », il voulait dire « Zéro péché ». C'était la première personne sur terre que j'ai jamais entendu croire que ce que Jésus avait ordonné était vrai, et c'était pour moi une confirmation enthousiasmante et que la perfection était non seulement possible, mais une nécessité logique. Je compris que tolérer le péché tout en prétendant être sauvé, c'était comme essayer de se prétendre enceinte à 90%. Je descendis immédiatement en courant pour le dire à ma femme. Elle fut dévastée, ayant l'impression que toutes ses propres expériences étaient menacées, mais elle aussi perdit sa peur de l'échec et, au lieu de cela, se réjouit à l'idée de la possibilité du changement. Peu après ma propre expérience spirituelle, ma femme eut une expérience intense venant du Seigneur. Nous étions dans le salon un soir, et elle entendit un son de trompette que j'entendis aussi, puis elle entendit un bruissement dehors, près de la porte latérale. Ma femme sut d'une manière ou d'une autre que c'était Jésus, et elle me demanda quoi faire parce qu'il voulait apparemment entrer. Je lui dis de l'inviter à entrer. Elle dit « Bien sûr, je l'aime » et il apparut immédiatement debout devant elle. Elle resta là un certain temps avec lui devant elle, ne sachant pas quoi faire. Elle pouvait sentir sa puissance et sa patience. Elle lui tint la main une minute, puis devint nerveux et lui demanda de reculer un peu, ce qu'en grande humilité il fit. Il se faisait tard, et elle me demanda ce qu'elle devait faire. Je répondis « Je suppose que nous devrions aller nous coucher, parce qu'il est très tard ». La figure du Christ se transféra immédiatement sur le palier de l'escalier menant à la chambre, sans mouvement, simplement d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Alors nous sommes montés et nous nous sommes couchés. Il s'assit au pied du lit. Quand ma femme se réveilla le lendemain matin, il était toujours assis là. S'inclinant devant lui, elle lui dit « Je ne sais pas quoi faire, que veux-tu que je fasse ?» Il posa ses mains sur sa tête, puis il se superposa à elle comme un voile, tandis qu'elle l'entendait lui dire sans mot à elle « Affermis ta colonne vertébrale, je n'ai rien vu de tout cela, mais je n'en ai pas douté une seconde. Aujourd'hui, nous savons qu'il la fortifiait pour un voyage difficile, plein de pièges, plein de graves erreurs et plein de frustrations. » Il lui donna une expérience sur laquelle elle pourrait toujours s'appuyer, quelle que soit la dureté apparente de nos circonstances. Nous avons visité une assemblée pentecôtiste à Sunnyvale, avec guitare, orgue, batteur, tambourin, et des membres sautant partout en priant en langue, prêts à essayer presque n'importe quoi, j'y ai été sauvé moi aussi, mais sans aucun effet. Lors d'une visite, le ministre demanda à ceux qui voulaient le don des langues de venir, et il le leur donnerait. Il posa alors ses mains sur moi, sans effet. Ensuite, il me dit de répéter ces sons après lui, ce qui devait déclencher le don en moi, aucun effet. Chaque fois que le ministre disait quelque chose de merveilleux, le groupe commençait à jouer, et deux ou trois habitués, remplis de l'esprit, se levaient d'un bond et se mettaient à danser tout en priant en langue. Les femmes secouaient aussi leurs tambourins. Trouvant leur esprit tout sauf sain, nous avons continué à chercher ailleurs notre bien-aimé. Tout le brouhaha chrétien parlait du retour imminent de Jésus. Hal Lindsey produisit un film, The Last Great Planet Earth, prédisant la guerre nucléaire, la destruction de la Terre et de grandes souffrances. Je l'ai cru. Je commençais à penser à déménager dans une ferme pour être prêt à survivre. Mon travail, pas chez IBM à ce moment-là, empirait. Le produit, dont j'étais responsable de la vente, était présenté avec des performances exagérées. J'avais amené deux prospects au point de réaliser un benchmark de tâches pour comparer les performances de notre ordinateur au leur. Dans les deux cas, notre produit n'atteignait que 60% de la capacité annoncée. J'ai perdu ces prospects. J'avais parlé aux ingénieurs, et je savais qu'ils ne savaient pas comment atteindre les performances revendiquées. Je suis allé voir ma direction, et je leur ai demandé de modifier les fausses allégations de performance dans leur documentation. Ils ont refusé de changer les affirmations publicitaires. J'ai démissionné au début de 1979. J'étais déterminé à trouver une autre façon de gagner honnêtement ma vie, tout en consacrant la majeure partie de mon temps à chercher Dieu. Nous avons commencé à chercher une ferme à vendre, près de la ville. Nous avons trouvé une vieille ferme, avec beaucoup d'espace pour cultiver des légumes et 12 boxes à chevaux, comprenant aussi une carrière de démonstration et tout le reste. Je pensais pouvoir cultiver ma propre nourriture et louer des chevaux, sans rien connaître ni à l'un ni à l'autre. Alors nous avons vendu notre maison, déménagé dans une ferme et acheté 4 chevaux, en espérant un nouveau moyen de revenu. Je réalise maintenant que c'était une erreur, j'aurais dû rester dans la position à laquelle j'étais appelé et ne suivre que ce que l'on me disait de faire. Nous ne sommes restés à la ferme qu'un an. L'entretien de la ferme et des chevaux me prenait beaucoup de temps, et l'idée de location de chevaux n'a jamais abouti. Un troupeau de 20 cerfs a sauté la clôture une nuit pour dévorer le grand jardin. Nous avons vendu la ferme et les chevaux, et nous avons emménagé dans un condominium en location, déterminés à vivre de nos économies tout en cherchant le Seigneur à plein temps. Nous n'avons jamais reçu le moindre centime d'aide de quiconque ou d'une agence gouvernementale. Nous avons vécu entièrement de nos économies et de l'argent provenant de la vente de notre maison. De l'autre côté de la route, en face de notre ferme, se trouvait un centre de retraite d'été mormon du Missouri astérisque, avec de nombreuses cabanes, un réfectoire et une maison de réunion. Les gardiens me donnèrent volontiers leurs livres, dont le livre de Mormon que je lus. Cet été-là, pendant leur retraite, l'un de leurs apôtres vint les rejoindre. Les gardiens m'invitèrent à venir le rencontrer. Je savais que les Mormons s'attendaient à ce que le royaume advienne après qu'ils aient établi une communauté religieuse dont les pratiques justifieraient le retour de Jésus pour le monde entier, mais pour ne les récompenser que en établissant son royaume dans leur communauté. Lors de notre rencontre, L'apôtre fit un petit discours puis demanda si j'avais des questions. Ma question était, puisque leur Bible disait que le royaume des cieux est en nous, Luc 17, 21, pourquoi les Mormons croyaient-ils qu'il s'agissait d'un royaume physique? La réponse de l'apôtre fut, où est-ce que c'est écrit? En réponse, je lui citai de nouveau la référence dans leur livre, il marmonna quelque chose et changea de sujet. Par courtoisie envers mes voisins d'en face, je suis ensuite allé à leur réunion. C'était froid, dur et très rigide. Leurs nombreux anciens étaient tous assis dans des fauteuils sur une estrade surélevée, comme une tribune de jury surélevée, me fixant pour la plupart avec hostilité, me jugeant apparemment comme un pécheur ayant besoin de leur marque de salut. Ce fut ma dernière expérience avec les Mormons. Astérisque, les Mormons du Missouri prétendent être les Mormons originels. Lorsque leur fondateur, Joseph Smith, mourut, il avait désigné son fils comme successeur. Brigham Young, un apôtre, s'y opposa et se sépara avec son propre groupe de partisans pour aller en Utah, y compris en épousant environ une douzaine des quelques 50 épouses estimées de Joseph Smith. Avant notre déménagement, nous avons assisté à un service méthodiste et appréciant le pasteur, nous sommes restés. Cependant, je devins mécontent de son manque d'orientation biblique. Je me souviens d'un sermon le jour de la Pentecôte où le pasteur commença à parler des dons du Saint-Esprit. Il dit à tout le monde que leur talent pour la couture, la cuisine, la peinture, la musique, etc. étaient tous des dons du Saint-Esprit, ce qui était totalement non scripturaire. Une autre fois, je me souviens d'être assis au service du premier jour tandis que le pasteur commençait à exhorter chacun à donner 10% de son revenu. Cela me révoltait particulièrement parce que, ma mère, institutrice divorcée, avait chaque année subi une forte pression pour s'engager et verser la dîme, et deux, beaucoup dans la congrégation étaient des veuves âgées ne vivant que de la sécurité sociale. J'étais misérable en l'écoutant et je commençais à gémir intérieurement. Soudain, j'étais debout, et le pasteur était venu pour me prendre dans ses bras. J'avais été saisi par le Saint-Esprit pour me lever et dire à haute voix, « Par quelle autorité dis-tu de telles choses ?» Le pasteur avait dit, « Quoi ?» Et j'avais répété, « Par quelle autorité dis-tu de telles choses ?» Je ne me souviens de rien de tout cela, sinon de la fin, mais ma famille m'en a donné les détails. À l'époque, je ne savais pas comment le Christ et Pierre avaient interdit aux ministres de prêcher pour de l'argent, confirmé par Paul. Je ne savais pas non plus que la dîme était morte avec le Christ, ni même que les dîmes ne portaient que sur les récoltes, pas sur l'argent, et qu'elles étaient collectées pour les orphelins et les veuves, pas seulement pour le bâtiment ou le ministre. Je me souviens clairement d'être allongé dans mon lit, comme d'habitude après être resté éveillé une bonne partie de la nuit à lire et à écouter des émissions de radio chrétienne, et d'avoir l'impression de tendre la main par-dessus un mur, incapable de voir ce qu'il y avait de l'autre côté, cherchant à tâtons quelque chose avec la main. Cela symbolisait mes tentatives de résoudre ce que Jésus enseignait et commandait, par rapport à ce que les sectes disaient être requis, en ignorant ses commandements et en disant que croire et où le baptême suffisait. Je savais qu'il devait y avoir une explication, mais je n'arrivais pas à la trouver. Et bien sûr, plus j'écoutais les mensonges standards qui sortaient de la chrétienté, plus cela devenait difficile. Une écriture qui me harcelait sans cesse était « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, péché, absence de loi ou méchanceté. » Matt 7, 21-23 Je supposais que l'Écriture parlait du rejet de chrétiens, issus de sectes, qui ne faisaient que croire, en Jésus sans fondement biblique, contrairement à ces sectes qui étaient réellement centrées sur la Bible. Bien sûr, maintenant je sais que les Écritures énoncent clairement trois raisons pour lesquelles ces gens, qui se disaient chrétiens, ont été rejetés. Un seul vont au ciel, ceux qui font la volonté de mon Père dans le ciel, ceux qui entendent Jésus au-dedans et lui obéissent. Deux, il ne les a jamais connus, nous le connaissons, si nous gardons ses commandements qu'il nous a adressés, et trois, il péchait encore. En réalité, il a dit la même chose trois fois. Parce que vous péchez encore, vous pratiquez l'illégalité, vous n'obéissez pas à mes commandements, ce qui est la volonté du Père, écouter, se soumettre à, et obéir à son Fils. Je me souviens avoir vu un jour une publicité montrant un homme très high-tech, une télécommande à la main, sur laquelle il était écrit « 150 chaînes liberté ». J'ai immédiatement compris que plus nous avions d'alternatives parmi lesquelles essayer de choisir, moins nous avions réellement de liberté, alors que ce que nous voulons vraiment, c'est être libérés de la nécessité de décider, mais avec l'assurance que notre action est toujours la meilleure, ce qui ne peut arriver qu'après être revenu sous le contrôle de Dieu. La parole du Seigneur au-dedans a ensuite confirmé mon impression par les paroles suivantes, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Marcher dans la lumière, c'est être guidé dans la vie par Dieu. Marcher dans les ténèbres, c'est prendre soi-même ses décisions sur ce qu'il faut faire et dire. Il y a une bénédiction à rendre permanente la cessation de l'esprit. Lorsque Jésus est notre véritable Seigneur, contrôlant et ordonnant nos pensées, paroles et actes, alors nous sommes libérés de l'esclavage consistant à essayer de décider ce qui est le mieux, de faire des erreurs, de nous inquiéter des erreurs passées, de nous inquiéter de ce qu'il faut faire ensuite, tout en ayant l'assurance que tout ce que nous sommes poussés à faire est parfait et absolument le meilleur pour nous. Nous sortons du trébuchement dans les ténèbres, nous recevons un collier pour voir, afin de pouvoir toujours faire ce qui est juste. Alors et alors seulement nous sommes justes. Je me souviens aussi d'un jour où j'étais assis tranquillement, quand le Seigneur m'a dit « Imagine un endroit où tout le monde court la course au maximum de ses capacités, mais s'efforce d'arriver dernier. Réfléchis grec. Si cela t'intéresse, lis la note de bas de page de 1 Cor 9, 24. Cela deviendra clair pour toi au fur et à mesure que tu avanceras dans ton parcours de recherche de Dieu. Nous avons commencé à chercher une autre secte en visitant une assemblée baptiste dans un quartier aisé de la ville. Ils étaient beaucoup plus bibliques. Je me souviens encore de la façon dont ils recueillaient l'argent pendant le service. Les huissiers dans les allées, avec un sac noir au bout d'une longue perche, passaient le sac au-dessus de chaque membre assis sur les bancs, attendant qu'il mette son argent dans le sac, puis déplaçaient la perche vers la personne suivante, la vision de ces gens tondant les brebis avec la bourse de Judas, ne faisant même pas confiance à leur propre assemblée, était saisissante. Je me disais que si quelqu'un avait besoin de cet argent à ce point, qu'il le prenne. Néanmoins, nous avons décidé d'adhérer et nous sommes allés à une réunion d'orientation pour les nouveaux membres. Dans cette réunion, le pasteur, au cours d'une discussion, a demandé si quelqu'un qui est sauvé pouvait perdre son salut en péchant. Il a expliqué qu'il croyait que, une fois sauvé, on est toujours sauvé, citant l'Écriture, « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand et plus puissant que tous les autres, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Jean 10, 29, je lui ai demandé si leur croyance incluait des baptistes sauvés qui, plus tard, commettraient des meurtres de masse et des viols de masse. Il a dit oui. Une fois sauvé, il était impossible de perdre son salut, quel que soit le nombre ou la gravité des péchés. Il y avait 20 autres personnes dans cette pièce, et pas une seule ne doutait de cette affirmation ridicule. J'ai dit au pasteur que croire que des sauvés, qui plus tard commettraient des meurtres de masse et des viols de masse, irait au ciel était ridicule, défiait le bon sens et obligeait à écarter des centaines d'autres passages. Leur logique défectueuse les force à accepter n'importe quel niveau de péché comme étant acceptable pour Dieu. Ils semblent penser que Jésus, qui nous a dit que nous devions perdre notre vie pour la sauver et être parfait, va les défendre au jugement pour avoir ignoré tous ses commandements et avertissements explicites. Ce n'est pas le christianisme, c'est Babylone, où l'homme de péché règne et siège sur le trône. Astérisque bien sûr, l'Écriture n'a pas tort, mais si vous êtes véritablement né de Dieu, vous ne péchez pas et vous ne pouvez pas pécher. Donc, l'erreur était de présumer avoir été sauvé en prononçant des paroles et en étant immergé dans l'eau. Quand vous êtes vraiment sauvé, vous témoignez de voir Jésus apporter votre salut jusqu'à devenir sanctifié et protégé du mal. Nous avons quitté les baptistes pour ne jamais retourner à un autre service. Je suis rentré chez moi, je me suis jeté sur le lit et j'ai dit sincèrement à Dieu. Si ce sont ces gens-là qui vont au ciel, alors envoie-moi en enfer avec les pécheurs, parce qu'au moins les pécheurs en enfer ne seront pas des hypocrites, et je préfère être en leur compagnie. J'étais un peu perdu, ne sachant vers qui me tourner. Je voulais la compagnie et la communion de croyants, mais je ne trouvais pas ceux qui cherchaient la même liberté vis-à-vis du péché, la sainteté et la pureté que la Bible exigeait. Je ne voulais pas être en communion avec des gens qui croyaient que péché est acceptable pour Dieu, en méprisant ses commandements et en vivant dans l'illégalité. Une autre chose me dérangeait, en quittant le service baptiste, j'ai remarqué sur le parking une Lamborghini. Une telle voiture coûte environ 200 000 dollars aujourd'hui, et j'y voyais une grande injustice envers les pauvres du monde entier qu'un soi-disant chrétien gaspille de l'argent pour sa vanité. J'ai donc pris rendez-vous pour voir le ministre, espérant l'alerter sur le problème. Tandis que j'exposais mon point de vue au ministre, que les chrétiens devraient partager avec les moins favorisés, en citant l'exemple des Actes, il m'a regardé comme si j'étais fou et a contesté ma référence biblique. Je lui ai aussi demandé pourquoi il ne parlait jamais contre le divorce, alors que la Bible disait clairement que le divorce et le remariage aboutissent à l'adultère. Il a répondu « Si je faisais cela, mon assemblée disparaîtrait ». Remarquez, à mesure que les mœurs de la société se dégradent, les standards de toutes les sectes déficitaires se dégradent proportionnellement. Il y a moins de 100 ans, Les églises ne toléraient pas le divorce, l'ivrognerie, le concubinage, les enfants illégitimes, etc. Aujourd'hui, nos sectes tolèrent n'importe quel degré de péché, en sympathisant et en consolant les ministres honteux publiquement exposés dans quelques excès scandaleux de péché, Agar, Baker, Swagger, etc. Sans parler de tous les prêtres romains, exposés, mais généralement non réduits à l'état laïque, pour avoir abusé des jeunes garçons de leur paroisse. Quand je suis rentré à la maison, conscient de mes échecs, je me suis assis par terre et j'ai commencé à prier. J'ai eu une vision d'un balai qui balayait mon esprit, et j'ai entendu le Seigneur me dire « Tu peux passer ton temps à essayer de corriger le mal, ou à me chercher. » Alors j'ai continué à chercher, et en essayant d'être comme Zachée, j'ai continué à donner la moitié de mes économies, principalement à des ministères radiophoniques, ce qui fut une erreur, en particulier à ceux qui prétendaient s'occuper des orphelins. Nous avons vagabondé en visitant plusieurs autres dénominations, puis nous avons finalement abandonné. J'en ai conclu qu'il n'existait dans le monde aucune secte ni réunion qui suive réellement Jésus, tous le prétendaient mais échouaient. Comme le Seigneur m'a dit récemment, ils ont éventré les enseignements de Jésus. Alors nous nous sommes repliés chez nous, avec trois ou quatre amis tout aussi pleins d'espoir qui nous rendaient parfois visite. Il y avait un ministre à la radio, prêchant la perfection, la pureté et l'amour de Dieu, disant qu'on y parvenait dans le placard, par un amour brûlant comme de la lave venant de Dieu. Nous avons continué à attendre Dieu, et nous avons recommencé à entendre la parole de Dieu du dedans. Comme il te le montrera aussi au début, le Seigneur m'a montré comment toute ma vie était centrée sur l'amélioration de mon image sexuelle, vêtements, maisons, voitures, investissements, hobbies, loisirs, etc. Les tromperies commencent un soir, pendant qu'il m'enseignait, il a dit « L'homme à glace arrive ». J'ai immédiatement perçu une lumière blanche et froide du côté gauche de ma vision, les yeux fermés, et j'ai entendu une voix dire « Voilà Jésus, juste devant toi, ma femme était directement devant moi ». Par erreur, j'ai avalé le mensonge, pensant que je devais aimer ma femme comme si elle était Jésus, et j'ai ainsi été détourné vers la convoitise de la chair pendant un certain temps. Une autre fois, après avoir terminé une longue période d'attente devant Dieu, j'ai entendu une voix dire « Va dire à tes amis et à ta famille ce que Dieu a fait pour toi ». À ce moment-là, j'étais au chômage depuis presque 2 ans, je ne possédais plus de maison, et mes perspectives dans le monde étaient inexistantes, de plus, j'avais très peu à dire. Stupidement, j'ai acheté un passe-bus Travel America de 30 jours, et j'ai traversé le pays en rendant visite à de vieux amis et à ma famille. Ce fut une grande erreur, cela n'intéressait personne et cela a créé des conflits avec plusieurs membres de ma famille. Encore une fois, j'ai accepté la tromperie, ne sachant pas que tant qu'on ne vous dit pas exactement quoi faire, quand le faire et quoi dire, il faut laisser tomber. La voix ne m'a pas dit exactement ce que j'étais censé dire à mes amis et à ma famille. En plus, on ne m'a pas dit précisément à qui aller, amis et famille étant trop vagues. Mais c'est une leçon que j'ai dû apprendre à la dure, et que je n'ai jamais vu écrite comme avertissement dans toutes mes lectures. L'une des plus grandes tentations de Satan est de vous tenter d'enseigner, de prêcher, ou même de témoigner avant que vous ne soyez capable de parler sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en parlant depuis l'Esprit que vous pouvez atteindre votre auditeur. Les paroles provenant de votre esprit charnel n'atteignent pas la partie sainte de votre auditeur, et vous dispersez au lieu de rassembler, vous attirant ainsi une condamnation et faisant aussi du tort à vos auditeurs. Je suis rentré chez moi frustré de mes échecs, soupçonnant d'avoir avalé un mensonge. Mais j'ai continué à attendre Dieu. L'erreur fondamentale que je faisais dans mon attente était de supposer que je devais être ministre et d'attendre qu'il réponde à ma question de savoir où je devais déménager. Je ne savais pas que je devais aller à l'attente devant Dieu sans question préconçue, avec seulement le désir d'apprendre tout ce qu'il voulait bien m'enseigner. Là encore, ce conseil ne se trouvait dans aucun écrit que j'avais vu. Le ministre radio prêchant la perfection par un amour brûlant, comme de la lave, a publié une lettre d'information avec une prophétie selon laquelle ceux qui vivent sur les côtes seraient détruits par d'énormes races de marée de 100 pieds de haut, laissant entendre qu'une guerre probable, peut-être nucléaire, suivrait. Vivant dans une ville côtière, un race de marée de 100 pieds aurait totalement détruit toute la population du littoral. Ce ministre avait publié une prophétie importante qui s'était réalisée, à savoir que le Seigneur enduirait de fiente le visage des télévangélistes de l'époque, ce qui est arrivé plus tard à Jimmy Swagger et Jim Baker. J'ai donc cru aussi à la prophétie du race de marée géant. À présent, je cherchais vraiment quand et où déménager. En attendant Dieu, j'ai vu apparaître en vision les chiffres d'une date, à environ 3 semaines, mais sans aucune compréhension accompagnant la vision. Rien n'a été dit indiquant que c'était le jour où les races de marée frapperaient, mais je l'ai stupidement supposé. Quelques jours plus tard, en attendant Dieu, j'ai vu un panneau qui épelait le nom Feather River, une petite ville de l'Idaho. Là encore, j'ai supposé à tort que cela venait de Dieu. J'étais trop orgueilleux et trop pressé de croire que Dieu répondait à mes prières, trop ignorant des ruses de Satan, et j'ai donc jeté la prudence au vent. J'étais comme ces hommes que Gédéon a longuement fait marcher et qui, arrivés à l'eau, ont bu sans guetter l'ennemi sans prudence. Dieu a dit à Gédéon de les renvoyer chez eux, ayant échoué au test, et donc inaptes à son armée. Aujourd'hui, je sais que toute vision, sans compréhension claire qui l'accompagne, doit être ignorée. Aujourd'hui, je sais que toute phrase ou toute sentence incomplète ne doit jamais être complétée par soi-même, elle doit être ignorée, à moins d'être comprise clairement et immédiatement. Ne suivez que des commandements moraux précis. Ces leçons, je les ai apprises à la dure. Je n'ai vu nulle part de traces écrites de tels avertissements. La voiture était au garage, et je prenais le bus pour aller faire des soins dentaires, quand il m'est venu à l'esprit que je devais avertir les autres du désastre imminent. Malgré un terrible conflit intérieur de ne pas avertir les gens, j'ai heureusement réussi à me taire. Nous avons retiré une somme d'argent à la banque et sommes partis vers cette ville isolée de l'Idaho, en nous arrêtant à Reno, Nevada, pour guetter un signe du retour du Seigneur pendant la journée où le ras de marée était censé frapper. Rien ne s'est passé. Nous nous sommes garés sur le côté d'une rue à Reno, et un ivrogne est sorti en titubant d'un bar. Je l'ai vu s'arrêter, se redresser et frissonner. Ensuite, il a marché avec assurance et parfaitement jusqu'à la voiture, s'est penché pour me regarder dans les yeux, et s'est moqué des préparatifs que j'avais faits pour le voyage. Avec des détails qu'il n'aurait jamais pu deviner, Satan se moquait de moi. Mais nous avons continué jusqu'à la petite ville de l'Idaho, nous attendant à arriver dans une nature sauvage de forêts et de ruisseaux. C'était une ville fantôme, abandonnée sans une âme. Pas de magasin, pas de service, pas de gens, rien. La plupart des arbres de taille respectable avaient été abattus, toute la zone était désolée. Elle n'était qu'à 20 milles de la base aérienne de Mountain Home, une base de bombardiers nucléaires B-52 du SAC, certaine d'être touchée en cas de guerre nucléaire. Je savais que j'avais encore été dupée. Nous avons donc remballé et sommes rentrés chez nous. Mes enfants n'avaient plus autant confiance en leur père. Ma femme était déçue, mais toujours engagée. J'étais anéantie, mais déterminée à ne pas abandonner et à continuer d'essayer. Découvrir les premiers Quakers après être rentrée chez moi, quelques mois plus tard, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque et d'étudier l'histoire de toutes les sectes chrétiennes, cherchant le même esprit et la même puissance qui existait dans l'Église primitive de Pierre et de Paul. J'ai parcouru toute une étagère de livres dans la bibliothèque de notre ville. Je feuilletais rapidement les livres quand je suis tombée sur un ouvrage intitulé « Early Quaker Writings », non écrit par des Quakers, où il était mentionné que les premiers Quakers s'écrivaient des lettres les uns aux autres, exprimant leur amour les uns pour les autres, ce qu'ils disaient être unique dans toute leur recherche historique. C'est ce qui m'a mis sur la piste pour approfondir les sources Quakers primitives. J'ai lu un peu au sujet de leur fondateur, George Fox, et j'ai demandé son journal en deux volumes via le prêt entre bibliothèques. Quand j'ai lu son journal, astérisque j'ai su que j'avais trouvé le témoignage de ce que je cherchais. Astérisque George Fox écrivait au sujet de l'attente devant Dieu, pas de la méditation. J'ai appris plus tard qu'il y a une différence importante. S'asseoir en silence pendant que nous attendons, en écoutant et en observant les enseignements de Dieu, diffère radicalement des méditations, dans lesquelles vous êtes censé ignorer toutes les pensées et toutes les voix, sans la moindre exigence d'obéir à ce que vous entendez. Un méditant bien entraîné, de niveau avancé des religions orientales, ne sera pas ébranlé, quelle que soit la force de la voix dans sa tête, ou même si une forme de Jésus apparaît. Rien ne les distrait de leur concentration dirigée. Ils ont même une expression pour souligner la nécessité d'ignorer toutes les voies et visions, si tu rencontres Bouddha sur le chemin, tue-le. Ils croient que toute image ou toute voix n'est pas la vérité, et doit donc être considérée comme une distraction, même si elle est complexe, profonde et merveilleuse, elle n'est regardée que comme une image surgissant de son propre esprit ou de la conscience collective. Mais à moins d'obéir aux convictions et aux commandements complets de ce repentir que vous entendez et comprenez, il n'y a aucun progrès spirituel. L'obéissance est la croix. L'obéissance, c'est renoncer à sa propre volonté et obéir à la volonté de Dieu comme il nous le commande. Le Saint-Esprit, ou Consolateur, ou Esprit de vérité, vous enseignera le péché et la justice, vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses si vous attendez Dieu en humble silence, tout en écoutant, observant, entendant ses paroles prononcées et en obéissant à ses commandements. Sa traduction inspirante au paradis était détaillée et se conclut par le fait d'être relevé par Christ jusqu'à l'état d'Adam et Ève avant la chute, encore capable de succomber à la tentation, puis relevé avec Christ jusqu'au ciel, assis en Christ dans les lieux célestes, au-delà de l'état d'Adam et non sujet à succomber à la tentation. Voici un homme anglophone qui parlait d'atteindre la pureté, la perfection, la sainteté, de demeurer dans la lumière, la communion avec le Père et le Fils, la communion dans l'Esprit avec d'autres croyants et avec les saints passés rendus parfaits, et des guérisons miraculeuses. Lui et les premiers Quakers ont été violemment persécutés. L'amour pour ses compagnons croyants et même pour ses ennemis transparaissait dans ses écrits. J'ai commandé ses lettres et le reste de l'ensemble en 8 volumes de The Works of George Fox par prêt entre bibliothèques. Je les ai lus avidement, impressionné qu'il ait réellement trouvé la vraie voie vers la pureté et le royaume. Les lettres de George Fox en 2 volumes, le journal de George Fox en 2 volumes, les 3 volumes de Doctrine, Doctrine I, Yi et Yi, et The Great Mystery of the Great War Unfolded, ont tous été mis à jour en langage actuel et sont disponibles à la lecture sur ce site. Ces livres n'étaient pas protégés par le droit d'auteur, ayant été écrits avant l'existence de toute loi sur le copyright. Ainsi, j'étais dans un magasin de photocopies, occupé à copier les livres, puisqu'ils n'étaient pas disponibles à l'achat à cette époque. Un homme s'est approché de l'endroit où je copiais et m'a demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je copiais un livre écrit par George Fox, le fondateur des Quakers. Il m'a regardé et a dit « Je suis pasteur baptiste, et je vous réprimande parce que vous violez les lois sur le droit d'auteur et vous êtes malhonnête. » Je me suis tournée vers la page de garde, je la lui ai tendue et j'ai dit « Regardez par vous-même, ce livre est délibérément sans copyright, permettant qu'il soit librement copié par quiconque est intéressé, contrairement à votre Bible, qu'il est criminel de copier, de peur que quelqu'un ne perde quelques dollars. » Il s'est éloigné en silence. Avec un espoir incertain, j'ai assisté à une réunion Quaker locale. C'était triste. Ils sont restés assis en silence pendant quelques minutes, puis un homme s'est mis à crier en pleurant « Dieu, où es-tu? Où es-tu ?» se plaignant qu'il avait besoin d'aide. Ensuite le lead apparent s'est mis à prier pour lui à haute voix. Puis une femme s'est levée pour annoncer leur dernier plan de protestation contre la guerre. Je n'y suis pas retournée avant 25 ans. Cette seconde et dernière fois, plusieurs personnes se sont levées et ont prononcé leur discours, le dernier étant le lead apparent, qui a parlé de la façon dont leurs esprits et leurs âmes étaient tissés ensemble sans tisserand. Il n'y est Dieu, nous sommes partis dès que nous avons entendu ces mots. Les lettres du Nouveau Testament ont commencé à prendre plus de sens pour moi et, lorsque j'ai lu Jean 17, j'ai été stupéfait par les promesses détaillées, dont je n'avais jamais entendu personne parler. Un jour, en attendant Dieu, j'ai entendu le Seigneur me dire « Débarrasse-toi de ces livres de chiens ». J'avais une bibliothèque remplie de soi-disant livres chrétiens, et le Seigneur a essentiellement dit qu'ils étaient tous écrits par des chiens judaïsants. Je les ai immédiatement jetés à la poubelle. Se retirer du monde, nous avons reçu l'instruction, pendant que nous attendions Dieu, de rester chez nous, d'arrêter toutes les visites sociales et de nous concentrer sur la prière et l'attente. Nous avons obéi avec empressement à cette instruction, nous rappelant les consignes données aux disciples de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vienne d'en haut. Il m'a même montré que je devais rencontrer les gens à la porte et m'occuper de là, sans les inviter à entrer. Nous avons dit à nos amis ce que nous faisions, et nous avons fermé la porte. Nous nous sommes lancés dans une attente encore plus intensive, essayant de rester assis toute la nuit pour attendre, plutôt que d'aller nous coucher. À ce stade de notre parcours, j'étais encore très sujet à la tromperie. La voix de l'opposition peut être indiscernable de la voix du Seigneur. L'ennemi se fera passer pour le Seigneur, vous tentant toujours de faire quelque chose de mauvais que vous voulez faire, ou vous tentant de faire quelque chose qu'on vous a dit de ne pas faire. Quand l'ennemi réussit à vous tenter, alors les messages que vous recevez proviennent à plus de 90% de l'ennemi, le Seigneur ne répétant que doucement et très rarement ses avertissements et ses ordres contraires à ce que vous faites. Mais comme vous recevez tant de messages de l'ennemi, vous encourageant à continuer sur la mauvaise voie, il est très facile de penser que les messages du Seigneur viennent de l'ennemi. L'ennemi parle aussi avec des messages qui ne viennent manifestement pas du Seigneur, mais qui critiquent ou se plaignent de ce que vous faites de travers, vous convainquant encore davantage que vous avez raison. Le plus souvent, l'ennemi persuade les gens qu'ils servent le Seigneur dans ce qu'ils sont tentés de faire, avant qu'ils aient été suffisamment transformés pour le servir correctement. Pensez aux millions de ministres et d'enseignants de Babylone qui enseignent des erreurs doctrinales flagrantes tout en entendant des messages qu'ils croient venir du Seigneur, mais qui les guident, eux et leurs auditeurs, sur le chemin de la destruction. Supposons que vous pensiez avoir reçu un don de guérison, un don de miracle, l'autorité d'enseigner, etc. Mais que vous ne soyez pas capable de prononcer des paroles venant de son esprit, que vous entendez immédiatement avant de parler. Vous accomplissez alors votre action pour le Seigneur, mais les seules paroles dont vous disposez viennent de votre esprit charnel. Votre action ne servirait pas le Seigneur, parce que vos paroles viendraient de la nature de la mort et ne pourraient pas atteindre correctement le cœur de vos auditeurs. Tant que votre esprit charnel n'a pas été suffisamment détruit, de sorte que vous n'ayez que des paroles provenant de l'esprit, uniquement des paroles provenant de l'esprit, que vous entendez immédiatement avant de parler, vous n'êtes pas apte à servir le Seigneur dans quoi que ce soit qui exige des paroles d'explication ou qui lui attribue le mérite. C'est un test simple que vous pouvez utiliser pour vous défendre contre la tentation avant d'être correctement équipé pour servir. Souvenez-vous de l'enseignement donné par la parole du Seigneur au-dedans. Quand tu prononces des paroles de toi-même, peu importe ce que tu les dis avec le mauvais esprit, et elles n'atteignent pas le cœur de tes auditeurs. Ainsi, supposons qu'on vous dise d'aller voir quelqu'un pour l'avertir de ce qu'il fait, à moins qu'à votre arrivée vous soyez suffisamment dans son esprit, comme George Fox écrivait au sujet du fait de parler à partir d'un enseignement préalable. Assurez-vous que la lumière est levée pour entendre les paroles exactes, et les seuls à prononcer, même répéter des paroles de lui que vous avez entendues dans le passé sera dit avec le mauvais esprit, ne le faites pas. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il n'est pas plus ferme pour corriger ceux d'entre nous qui ont été trompés et qui avancent sur une mauvaise voie. La réponse que j'ai reçue fut « le remède est pire que le mal ». Apparemment, nous sommes laissés à découvrir lentement nos propres erreurs avec seulement ces rappels très doux et peu fréquents, parce que sa correction ferme nuirait davantage à notre progrès final. Si vous avez été trompé et avez suivi la mauvaise voie pendant un certain temps, il est très facile de devenir amer ou offensé de ne pas avoir été corrigé, ne le faites pas. Souvenez-vous que le Seigneur est pur, parfait, bon, doux, sage, et qu'il est l'amour lui-même, et tout ce qu'il fait ou ne fait pas est pour votre bien ultime. S'il nous corrigeait fermement, soit notre confiance subirait un coup trop sérieux, soit peut-être nous retomberions plus tard dans un stratagème plus subtil visant à nous tenter à l'avenir. J'ai été dupé plusieurs fois, subissant de très longs retards dans mes progrès. Les directives ci-dessous proviennent de l'expérience de mes échecs. Elles visent à vous protéger contre la tromperie. Ne jetez pas la prudence au vent quand vous entendez un message qui viole l'une des directives ci-dessous, en vous croyant une exception parce que vous pensez que le Seigneur vous a dit de le faire. Il vient un temps où nous pourrons distinguer avec précision la voix du Seigneur de celle de l'ennemi. Jusque-là, soyez extrêmement prudents et refusez de violer l'une quelconque des directives ci-dessous, fournies pour vous empêcher d'être trompé par l'opposition. Ignorez toutes les visions et tous les rêves sans compréhension immédiate et claire les accompagnant. N'essayez pas de deviner ce qu'il signifie, jusqu'à ce que vous ayez vu Jésus apparaître dans votre cœur pour vous guider et vous apporter le salut. Ignorez tout message que vous entendez et qui vous ordonne ou vous encourage à passer beaucoup de temps loin de l'attente devant lui. Voir 2 Tim 2, 4 pour plus de détails. De la parole du Seigneur au-dedans, tu peux passer ton temps à essayer de corriger le mal ou tu peux passer ton temps à me chercher. Renonce au monde. Je ne diminue en aucune façon ce qui passe du temps à lire le site web. Si vous recevez un message partiel, n'essayez pas de combler les blancs ou de le compléter selon votre meilleure hypothèse. Si le message est important pour vous, vous l'entendrez entièrement plus tard. Ne vous inquiétez pas, il répétera tout ce qui est important. Comprenez que tous les êtres spirituels, y compris les démons, peuvent lire vos pensées. C'est ainsi qu'ils adaptent leurs tentations à vos désirs exacts. Ils peuvent entendre votre raisonnement, ils peuvent entendre vos doutes, et ils répondent ensuite pour profiter même d'un tout petit doute dans le mur de votre détermination. Comprenez que Dieu permet aux démons de nous tenter afin que nous suivions nos propres convoitises, pour qu'elles soient mises au jour, soit pour les renier et grandir, soit pour y céder, souffrir, et finalement se repentir avec une perte de temps. Ne vous conformez à aucune instruction clairement définie comme péché dans la Bible. Peu importe la logique du raisonnement qui pousserait à violer les lois morales, ne le faites pas. Comprenez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc la piété est la même, donc le péché est le même, rien n'a changé, comme défini dans la Bible. Jésus ne s'est pas modernisé, ajustant la morale à la pensée conventionnelle. La société change, Jésus ne change pas. Le péché est le péché, et il ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit que la Bible interdit. N'achetez jamais la logique selon laquelle, si vous vous avilissez d'une manière ou d'une autre, vous démontrez votre humilité et votre volonté d'accepter un rôle inférieur. Le Seigneur ne vous demandera jamais de vous avilir par un acte répugnant ou immoral. Il mettra en lumière votre manque d'humilité, détruira votre orgueil et fera naître en vous une véritable humilité, mais jamais par un avilissement ou une immoralité. Si vous recevez un changement d'instruction qui viole vos compréhensions précédentes, vous devez ignorer la nouvelle instruction. Si c'est le Seigneur qui parle, il vous conduira à comprendre, pas à pas, pourquoi tout revirement qu'il opère est totalement logique. tant que vous n'avez pas été conduit par le raisonnement pas à pas, ignorez tout ordre qui viole des ordres ou des compréhensions antérieures. Vous recevrez beaucoup de messages qui violent une compréhension ou un ordre antérieur du Seigneur, et parce que ce changement vous permet de faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, vous pouvez facilement être trompé, ne le soyez pas. De même, si vous recevez l'ordre de vous écarter de ce que vous faisiez, un ordre donnant une nouvelle direction à votre vie naturelle, à moins qu'il n'existe un fondement d'ordre précédent ayant expliqué la logique et la nécessité du changement de direction, ignorez-le. Par exemple, supposons que vous receviez l'ordre d'acheter quelque chose, d'aller quelque part, d'aller voir quelqu'un, de déménager, de changer de travail, etc., sans avoir été auparavant préparé à comprendre la nécessité du changement à venir, ignorez-le. Comprenez que toute instruction que vous recevez et qui n'a pas de bon sens pour vous doit être ignorée. Ne tenez pas compte de toute vision dont le message est écrit. Le Seigneur parle par une voix discernable ou par une compréhension connue immédiatement, sans communication par l'écrit ni par des mots apparaissant dans des visions. Ne tenez pas compte de toute instruction vous disant d'aller quelque part, de faire quelque chose sauf se repentir, ou de dire quelque chose à quelqu'un à moins qu'on vous dise exactement quoi faire, quand le faire, et qu'on vous donne les mots à prononcer immédiatement avant de parler. Si c'est important, cela sera rendu parfaitement clair. Comprenez, vous serez tenté de prêcher, d'enseigner, ou de témoigner bien avant d'avoir été purifié, ne tombez pas dans le panneau. Tant que vous ne pouvez pas entendre en temps réel, de sorte que vous ne puissiez parler que des paroles entendues de l'Esprit, vous n'êtes pas prêt à prêcher. On vous dira souvent d'appeler quelqu'un au téléphone, ou d'aller le voir, ou d'aller à un certain endroit, à moins d'avoir des paroles de lui, et seulement des paroles de lui, à dire, ce n'est qu'une tentation d'utiliser vos propres mots quand vous obéissez. Vous serez aussi tenté de voyager, de déménager dans une autre ville, etc. Restez stable. J'ai dû être invité 100 fois à déménager vers diverses villes, ou à voyager vers diverses villes, jamais avec un raisonnement clair, ou jamais de façon sensée. Ces tentations sont toutes liées à votre orgueil, vous faire croire que vous êtes spécialement équipé pour faire quelque chose pour le Seigneur, bien avant d'avoir été purifié et d'avoir reçu une augmentation majeure de son esprit. Ne vous conformez jamais à un ordre qui vous oblige à vous endetter. Restez hors de dette et ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Rome 13, 8. Si vous espérez vaincre vos désirs sexuels, ne cessez pas pendant un temps les relations sexuelles avec votre conjoint sans consentement mutuel entre vous deux. Sinon vous risquez une aliénation majeure de votre conjoint, voire un corset 5-7 pour plus de directives. Totalement contraire à l'Écriture, le diable, se faisant passer pour le Seigneur, aimerait réussir à vous ordonner de cesser les relations sexuelles contre le désir de votre conjoint afin de favoriser une relation hostile dans votre mariage, peut-être même sa rupture, vous causant une détresse amère, une perte de confiance et une perte de toute paix, et une douleur considérable à votre conjoint. Ignorez toute instruction que vous entendez et qui est dure, amère, sarcastique, avec un langage grossier, sur le ton de la plaisanterie, etc. Ignorez tout ordre, même un ordre de vous repentir ou une réprimande qui n'est pas pure, pacifique, juste, doux, facilement accepté, immédiatement compris, sincère. De la parole du Seigneur au-dedans, le Seigneur est doux et bon envers ceux qu'il corrige, et plus que d'ordinaire envers ceux qui sont dans des circonstances de souffrance. Il n'est que amour et bonté. Répétition, le Seigneur ne met en lumière que les péchés que nous ne voulons pas admettre à affronter, ou ceux dont nous ne sommes même pas conscients. Ce que nous regrettons d'avoir fait dans le passé, il ne l'évoquera même pas une première fois. Le Seigneur ne revient jamais 2 fois sur nos péchés. Les miracles apparents, prodiges, mensongers, comme discutés dans la section suivante, n'annulent pas ces avertissements. Ils sont uniquement conçus pour vous troubler et vous faire croire que Dieu vous demande de faire quelque chose de mal. Quand vous recevez un ordre qui a du sens, qui est moral, compris, et peut-être même fait écho à ce dont vous vous souvenez avoir lu dans la Bible, c'est le moment de faire tous les efforts pour obéir du mieux que vous pouvez. L'opposition essaiera de vous faire douter que vous l'avez vraiment entendu de Dieu, ou que vous l'avez bien entendu. Ne doutez pas d'un commandement moral concernant votre conduite et ou votre conversation, obéissez-y. Ne posez pas de questions en vous attendant à une réponse oui ou non de Dieu. Il ne répond pas ainsi, mais les démons adorent jouer à ce jeu, où votre esprit fabriquera une réponse. Dieu enseigne par des compréhensions, il n'enseigne pas par des réponses oui ou non. Comprenez que, quelle que soit votre addiction, quelqu'un finira par se présenter pour vous en offrir davantage. Ne pensez pas que Dieu vous récompense par des vacances loin de la justice, ce n'est qu'une tentation à refuser. Vous pouvez marcher et trouver quelque chose auquel vous avez été accro, littéralement posé sur votre chemin, ne prenez pas cela pour un cadeau de Dieu, ce n'est qu'une tentation à refuser, ce qui vous rend plus fort. On vous dira beaucoup de mensonges, que vous êtes parfait, que vous êtes irréprochable, que vous êtes pur, que vous êtes prêt à prêcher. Comme la parole du Seigneur au-dedans l'a dit, quand tu seras parfait, ce sera abondamment clair. Vous entendrez beaucoup de paroles au sujet des guerres et des catastrophes, jamais complètes, jamais accompagnées d'instructions sur la façon de vous y préparer, seulement des rumeurs pour vous déstabiliser et vous inquiéter, ou pire, pour vous détourner de votre confiance dans le Seigneur pour vous guider. Souvenez-vous, ces messages construisent, l'un s'ajoutant au précédent, tout message valable exigeant une action de votre part aura toujours un fondement substantiel de message antérieur. L'espérance différée rend le cœur malade, mais quand le désir s'accomplit, c'est un arbre de vie. Pro 13, 12. Le royaume est fait d'endurance patiente. Pour ceux qui cherchent Dieu comme première priorité de leur vie, en l'attendant avec une fréquence et une durée croissante, vous serez exposé à de nombreux mensonges sur le moment où certains événements de votre vie spirituelle et ou physique changeront. Ignorez tous les messages qui fixent des dates pour les événements que vous espérez. Ces mensonges de Satan, une fois reconnus comme mensonges, anéantissent nos espérances et rendent nos cœurs malades. Le Seigneur doit briser nos cœurs avant de pouvoir créer le cœur nouveau. Le Seigneur doit détruire notre amour de soi, nous soumettant à la honte et à la perte avant d'enraciner et d'établir le véritable amour dans notre cœur. Il transforme les mensonges de Satan en moyen de briser notre cœur et l'amour de soi. C'est le moins qu'on puisse dire très pénible, mais avec le temps la détresse devient de moins en moins grande. Quand le désir s'accomplit, particulièrement le royaume, alors nous oublions la douleur de l'enfantement et nous célébrons l'enfant. Ainsi nous apprenons la patience et notre foi augmente, ce que la parole du Seigneur au-dedans a dit, c'est de cela qu'il s'agit. Malgré la douleur aiguë du voyage, tout est bien qui finit bien. Comme la parole du Seigneur au-dedans me l'a dit, sois comme l'Église primitive qui, par une joie inexprimable, a enduré jusqu'à la fin. Si vous recevez un message du genre, dis-leur au sujet de l'Évangile, cela ne vient pas de lui, ce genre de message vous encourage à parler depuis votre esprit charnel avec vos propres mots, ce qui est la nature de la mort. De la parole du Seigneur au-dedans, il y a beaucoup de pièges et de traquenards en chemin. Le diable travaille toujours très dur pour vous attirer dans l'un de ses pièges et de ses traquenards, et si vous tombez dans l'un de ses stratagèmes tentateurs, il espère que vous vous découragerez et renoncerez à votre recherche de Dieu. Il peut entendre toutes vos pensées, donc il sait ce que vous voulez, et il adapte ses appâts et ses pièges pour séduire vos désirs. Presque toujours, ces tentations sont quelque chose que le Seigneur vous a commandé de ne pas faire ou que vous savez être mal. Le diable imite la voix du Saint-Esprit et donne des instructions très détaillées et complexes sur une longue période, donnant l'impression que le Seigneur vous ordonne d'avancer, vous convainquant qu'il s'agit d'une exception pour vos besoins particuliers. La prédication, l'enseignement non guidé, les montages d'investissement et les achats importants nécessitant de s'endetter sont fréquents. Il y a une voix du Seigneur comme le tonnerre sur les eaux, décrite dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. C'est radicalement différent de la petite voix douce et légère que nous entendons au-dedans de nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole du Seigneur au-dedans parlent avec des mots de Jésus, ainsi nous entendons le Fils de Dieu. Mais tant que nous ne pouvons pas véritablement entendre la voix du Seigneur, nous ne saurons pas avec certitude que c'est le Seigneur qui nous parle. De la parole du Seigneur au-dedans, vous aurez toujours des doutes jusqu'à ce que vous entendiez sa voix. Ma voix est comme le tonnerre sur les eaux, vous entendrez sa voix quand il vous appellera. Nous entendrons, pour la première fois, la voix du Seigneur comme le tonnerre sur les eaux après nous être soumis au baptême de feu et à la mort, pour être ensuite ressuscités avec lui comme une nouvelle créature. Alors, comme l'énonce Jean 10:3-5, nous connaîtrons sa voix, il nous conduira hors du monde vers le royaume, et nous fuirons les autres voies. Quand vous entendez sa voix pour la première fois, vous êtes passé de la mort à la vie, et une fois que vous avez entendu sa voix comme le tonnerre sur les eaux, vous saurez toujours si oui ou non c'est le Seigneur qui vous parle. Nous devons d'abord écouter le Saint-Esprit et la parole du Seigneur au-dedans afin d'entendre et d'obéir à ses nombreux enseignements et commandements. Ensuite, par une longue persévérance et une patience dans l'accomplissement d'œuvres obéissantes de repentance, nous faisons l'expérience du baptême de feu et de mort, pour ensuite entendre la voix du Seigneur lorsque nous passons de la mort à la vie. Jusque-là, nous devons être sur nos gardes afin de ne pas être trompés par l'ennemi, qui prétend que c'est le Seigneur qui nous parle. Sur la base du conseil d'Edward Burroughs, cliquez pour lire. Un géant parmi les premiers Quakers, tant que nous ne pouvons pas distinguer entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi, nous ne devrions rien faire pour le Seigneur, sinon suivre ses commandements astérisque de se repentir. Et William Penn a écrit, bien qu'il soit du devoir de tous de marcher dans la lumière, et de l'attendre, afin d'être instruits par elle dans la voie de la vie et du salut, ce sont pourtant seulement ceux qui sont réellement conduits astérisque astérisque. Astérisque, tout commandement du Seigneur d'avoir à se repentir doit être d'abord pur, puis pacifique, équitable, doux, facilement accepté, plein de miséricorde et de bons fruits, immédiatement compris et sincère. Jacques 3, 17 astérisque astérisque pour rappel, pour être guidé ou conduit par la lumière doit d'abord se lever dans votre cœur comme une étoile magnifique, de sorte qu'on vous montre tout ce qu'il faut faire et qu'on vous dise tout ce qu'il faut dire. L'apparition indubitable de la lumière vient de la foi en la voix. Vous pouvez entendre le Seigneur vous dire d'aller de l'avant dans votre projet d'acheter quelque chose ou de faire quelque chose que vous estimez nécessaire, et pourvu que ce ne soit rien que vous sachiez être mal, ni rien qu'il vous ait dit de ne pas faire par le passé, vous pouvez suivre ses suggestions avant de pouvoir distinguer sa voix. Si vous n'avez pas besoin de ce que vous envisagez d'acheter, il peut vous dire clairement « tu n'en as pas besoin ». Si ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose que vous envisagez, il peut vous dire « ce n'est pas nécessaire ». Si c'est nécessaire et ou utile, il peut vous encourager à continuer. Après le jugement final, vous pourrez distinguer avec précision entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi, voir la note de bas de page à Galates 3, 24 jusque-là, soyez particulièrement prudents et refusez de transgresser l'une quelconque des directives ci-dessus, fournies pour vous empêcher d'être trompé par l'opposition. Ne vous mettez pas en colère contre l'opposition, c'est ce que le diable veut, car lorsque vous vous mettez en colère, vous êtes tombé dans ses voies. Plutôt que la colère, votre plus grande arme est de les ignorer totalement, ce qu'ils détestent car cela les rend inefficaces. Encore une fois, à ma connaissance, aucune de ces tromperies n'a jamais été documentée auparavant. Donc, peut-être ai-je dû les vivre pour les apprendre clairement et profondément, afin de pouvoir vous les communiquer. Avec la plupart des tromperies ci-dessus encore mal comprises de ma part, j'étais destiné à échouer, et à échouer lamentablement. Je buvais encore l'eau sans prendre la précaution de surveiller l'ennemi, et sans comprendre que tout ce que la Bible définissait comme péché ne changerait jamais. Mais avant de poursuivre avec le sombre relevé de mes échecs survenus en 1981, je suis heureux de dire que, longtemps après, par la miséricorde et la patience du Seigneur, il m'a conduit à la réussite, il m'a délivré de la prison de la fosse, a restauré au centuple tout ce que j'avais perdu, tout sauf mon orgueil, qu'il a abaissé dans la poussière, louange à son saint nom pour toujours, car il est sans défaut, parfait, pur, bienveillant, pardonnant, miséricordieux, patient au-delà de toute croyance, encourageant. Tout est bien qui finit bien. De plus grosses erreurs nous avons attendues ensemble en famille, recevant tous beaucoup de visions, dont je sais maintenant qu'elles sont inutiles et doivent être ignorées, et des compréhensions occasionnelles. Je pensais avoir des instructions pour nous débarrasser de nos vêtements en trop, ce qui a continué jusqu'à ce que nous n'ayons plus que deux exemplaires de tout, chemises, pantalons, sous-vêtements, chaussets, etc. Puis j'ai eu une vision où nous chargions nos lits dans le camion de Goodwill. Comprenez bien, on ne m'avait pas dit de donner nos lits. Par erreur, j'ai supposé que la vision signifiait de donner nos lits, ce que nous avons fait. Nous avons tous dormi par terre, heureusement sur de la moquette. Ensuite, j'ai eu des visions concernant les jouets des enfants, les médicaments en vente libre, etc. Nous avons donné tout ce qui n'était pas essentiel, y compris notre chien et notre voiture à une œuvre caritative chrétienne de la ville Monchois, dont le fondateur, un homme, a été inculpé plus tard pour avoir molesté sexuellement de jeunes garçons confiés à ses soins par les services départementaux de la jeunesse. Sur le moment, nous étions heureux de le faire, cela faisait même du bien de nous débarrasser de nos possessions. Encore une fois, les visions n'étaient pas accompagnées de compréhension immédiatement claire, elles auraient donc dû être ignorées. En essayant d'interpréter les visions, je me suis peu à peu laissé berner, et je suis retombé dans la satisfaction de mes convoitises charnelles, qui n'ont cessé d'augmenter et d'augmenter, en pensant stupidement que je suivais les soins du Seigneur. Il y avait beaucoup de phénomènes surnaturels pour accompagner ces visions trompeuses, venant étayer mes suppositions sur leur sens. Un froid glacial ou une chaleur intense appliquée à mon corps, de nombreux bruits de claquements, des lumières s'allumant et s'éteignant, des dessins sur la moquette, des visions sur les murs, etc. Nous étions attaqués, et j'étais trop stupide pour reconnaître l'ennemi. Je voulais croire que Dieu accomplissait ses miracles pour mon bénéfice, mon orgueil a été ma ruine. À ce stade, nous avions déjà glissé très loin sur la pente glissante. Voir l'opposition pour en savoir plus sur les signes surnaturels trompeurs, les prodiges mensongers. À peu près à cette époque, un jeune couple avec lequel nous avions parfois été en communion par le passé est venu frapper à la porte. Ils ne nous avaient pas vus depuis plusieurs semaines. Ils avaient besoin d'emprunter de l'argent. Au lieu de simplement leur prêter l'argent, sans réfléchir, je les ai invités à entrer dans la maison, ce qui a entraîné d'autres conversations sur ce que nous faisions. Souvenez-vous, le Seigneur m'avait dit de ne laisser entrer personne dans la maison, de les rencontrer à la porte et de fournir là uniquement ce qui était nécessaire. Ainsi, de fil en aiguille, ils ont commencé à passer du temps avec nous à la maison, se joignant à nous pour attendre le Seigneur. Le mari travaillait, il ne pouvait donc pas passer autant de temps que sa femme. Me sentant mal, qu'ils doivent travailler et qu'ils manquent le temps pendant lequel il aurait pu progresser spirituellement, je leur ai donné la moitié de l'argent qui me restait, l'autre moitié ayant déjà été donnée, afin que lui aussi puisse poursuivre la recherche du Seigneur à plein temps. Ils ont emménagé chez nous pour éviter le temps de déplacement, et ensuite les choses se sont détériorées. J'ai échoué davantage, pas totalement, mais assez lamentablement. Heureusement, la jeune épouse a été dégoûtée et est partie, le mari est parti pour la rejoindre quelques jours plus tard. Tout le monde pensait que nous faisions ce qui était juste, et il était très difficile d'admettre que nous avions été si complètement dupés, au point de nous être autant égarés. Mais j'ai finalement réalisé et admis que nous avions commis une série d'énormes erreurs. Je me sentais condamnée, perdue, sans espoir de pardon. Je me suis mis à pleurer et à expliquer aux autres sauf à la femme, qui avait compris la première que nous n'étions pas dans le vrai et qui était partie à quel point nous avions eu tort, moi étant le pire contrevenant en tant que membre le plus ancien du groupe. Pendant que je pleurais, j'ai entendu sa voix dire, fort et clairement, « Parce que tu t'affliges de tes erreurs, il t'est donné une autre chance. » Un peu avant de prendre conscience de mes bévues, un matin d'un premier jour, je me suis rappelé que plusieurs des personnes âgées de la congrégation méthodiste que nous avions quittées allaient mourir sans savoir qu'il existait une plus grande espérance. On m'avait demandé d'y être prédicateur laïque invité un premier jour. Je me suis dit que je devais peut-être y retourner pour les avertir. Cela a été immédiatement confirmé par des signes trompeurs de claquements sonores. Récemment, ma femme a compris, d'après les enseignements du Seigneur, qu'il m'a permis d'y aller, ayant déjà prêché là par le passé, parce qu'il était bon de les avertir et de ne pas être le moins du monde responsable de leurs problèmes à venir après la mort. Nous avons donc tous marché jusqu'à la réunion, et en entrant ils célébraient la communion. Je suis montée devant, et je me suis tournée pour adresser aux gens un court message. Une femme de la congrégation s'est immédiatement levée et est venue en m'attrapant par les poignets et en me pressant de partir. J'ai donné un coup sec vers le bas avec mes poignets pour libérer ses mains. Le pasteur a dit à tout le monde de sortir, ce qu'ils ont fait en allant dans le hall. Ensuite, l'un des hommes de la congrégation m'a saisi autour des bras et de la poitrine, me traînant dehors brutalement et avec colère. Je me suis laissé aller sans opposer de résistance, et le pasteur lui a dit de s'arrêter. N'ayant personne à qui parler, je suis parti. Alors que je sortais, la police est arrivée, m'a menotté et m'a mis dans la voiture de patrouille. Le pasteur est venu à la fenêtre de la voiture en riant et m'a dit, « Tu vois, Roll, c'est exactement comme le dit la Bible dans l'Apocalypse, tu m'as persécuté aujourd'hui. » J'ai répondu, « Non, c'est toi qui te trompes, c'est moi qui suis assis dans la voiture de police menottée en route vers la prison, persécuté parce que tu as appelé la police pour me poursuivre. Heureusement, ma famille n'a pas été arrêtée. Alors que nous partions vers la prison, je me suis mis à chanter, joyeux d'avoir été jugé digne de la persécution. » L'agent a arrêté la voiture et a appelé son supérieur par radio, demandant l'autorisation de ne pas m'emmener en prison, ce qu'il a obtenu. Il m'a conduit au poste de police, m'a fait entrer et m'a remis une contravention pour avoir enfreint une loi de l'État dont j'ignorais même l'existence, interrompre un service religieux. Après avoir signé un engagement de comparaître devant le tribunal pour répondre aux accusations, il m'a relâché. J'ai rejoint ma famille qui rentrait à pied et je les ai accompagnés. Lorsque je suis allé au tribunal, j'ai plaidé non coupable et j'ai exercé mon droit à un procès rapide. J'étais déterminée à assurer moi-même ma défense. Le juge nous a fait venir dans son cabinet et m'a supplié de renoncer à mon droit à un procès rapide ainsi que de prendre un avocat. J'ai accepté de renoncer à mon droit à un procès rapide et le procureur a immédiatement remis au juge une autre accusation prétapée à ajouter au dossier, que le juge a aussitôt acceptée. Il m'a en outre inculpé de voies de fait, prétendument pour avoir abaissé brusquement mes poignets afin d'enlever ses mains de moi. Le juge m'avait piégé, en cédant mon droit à un procès rapide, cela a permis au procureur d'ajouter des chefs d'accusation. J'étais déterminée à contester les accusations, mais j'ai entendu la voix du Seigneur dire « Ne fais pas subir cela à ta famille ». Ainsi, la veille du jour où le procès était censé avoir lieu, je me suis présentée au tribunal pour informer le juge que je n'étais pas prêt pour le procès du lendemain. Je me suis penchée vers le procureur adjoint et lui ai dit que j'avais bien interrompu le service, mais que je n'avais en aucune façon agi contre la femme comme on me l'imputait. J'ai dit, « Je plaiderai coupable pour l'accusation d'interruption du service si vous abandonnez l'accusation de voie de fait. » Il a accepté et j'ai dit au juge que j'avais trouvé un accord avec le procureur et j'ai plaidé coupable. Le juge a demandé au procureur s'il avait des recommandations, et il a répondu non. Le juge a examiné les détails des accusations en disant « Ça n'avait pas l'air bon, mais je refuse de vous pénaliser sévèrement. » Il m'a condamné à 1 an de probation sommaire. La sanction en cas de violation de toute loi durant cette année, y compris traversée hors des clous, étant une peine de prison immédiate, en expliquant que si je déménageais hors du comté, toute infraction ne compterait pas. Il a ajouté que si je respectais la probation, la trace de la condamnation pour délit pouvait être effacée. Je n'ai eu aucune difficulté à respecter la probation. Cette congrégation méthodiste a cessé d'exister quelques années plus tard. Le vieux bâtiment principal en bois a brûlé jusqu'au sol, heureusement sans blessés. L'ancienne salle de réunion a été achetée pour devenir un centre d'accueil de santé mentale, et des appartements pour malades mentaux doivent être construits sur l'ancien site du bâtiment principal. Le pasteur était parti bien avant l'incendie, mais dans au moins l'une de ses villes suivantes, il existe sur Internet un rapport indiquant que le bâtiment de sa secte y a aussi brûlé. Souffrance, ma femme avait maintenant perdu confiance en moi, et je ne pouvais pas le lui reprocher, mais nous sommes restés ensemble et avons attendu intensément. Soudain, j'ai été saisie d'un étrange trouble douloureux et continuel dans mes parties intimes, dont j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'une expérience courante chez David et qu'elle est évoquée par Jérémie, Ésaïe et les Lamentations. Il était évident que c'était surnaturel. Je pensais être punie. J'ai essayé d'aller dans un motel pour m'éloigner. Le problème m'a suivi. Je me souviens qu'un jour, dans la douleur et très déprimée, j'ai décidé de faire une promenade à la campagne. Alors que je commençais à sortir de la ville, je pouvais voir un bel immeuble de bureaux neufs en construction sur le site d'un ancien abattoir. J'étais en colère et je pensais que Dieu m'avait trahi. Honteusement, j'ai brandi le poing vers Dieu, regardant le bâtiment en face, et j'ai dit « Pourquoi ces gens ont-ils tant de chance et moi, suis-je ainsi trahi ? Nous reparlerons plus tard de ce bâtiment sur l'ancien abattoir. » Je me sentais trahi, ma fuite avait eu lieu en hiver, le pire moment possible, j'avais froid avec peu ou pas d'amour restant. Je pensais à tort être puni pour avoir échoué, et je suis devenu rancunier et amé. Il y avait en moi quelque chose qui a commencé à maudire Dieu en pensée, l'accusant, ça a été l'expérience la plus misérable de ma vie. J'étais en agonie parce que je ne pouvais pas arrêter les pensées dans ma tête. Elles martelaient mon esprit. Mon seul soulagement venait lorsque ma femme me caressait le front ou lorsque je dormais. C'est une chose terrible que de savoir qu'on pense les pires pensées possibles, incapable de les arrêter, surtout lorsque l'on sait que ces pensées sont entendues par tous les êtres spirituels autour de vous, ce qui prouve clairement qu'ils vous ont entendu. J'ai souhaité mourir très très souvent. Je pense que c'est en partie ce à quoi l'enfer ressemble. Il n'y a rien de pire que je puisse imaginer. J'éprouve une grande pitié pour tous ceux en enfer, qui devront endurer ce qui sera probablement bien pire pour eux, en particulier ceux qui pensaient avoir été sauvés, puis être bannis en enfer. La douleur physique était mauvaise, mais mes pensées qui étaient lues étaient de loin plus douloureuses. Mon chagrin et ma tristesse m'ont submergé. Je vivais minute après minute dans le désespoir, exprimant constamment ma haine de moi-même à Dieu et le suppliant d'arrêter cela, de me tuer, de me pardonner encore, et encore, et encore, sans pourtant perdre complètement l'espérance. J'ai dû pécher 100 000 fois, jamais avec mes lèvres, mais mon esprit était mon enfer littéral. Mais en m'apitoyant sur moi-même, je n'ai jamais regardé en arrière vers le monde. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit de ce que j'avais abandonné, ni désiré revenir de quelque manière que ce soit. Je savais que le monde était faux, avec une fausse espérance, et qu'il n'offrait que de la nourriture pour les porcs. J'ai appris depuis qu'une part du salut consiste non seulement à être pardonné de ses péchés, mais aussi à voir leurs souvenirs lavés par le sang de Jésus aspergé sur votre conscience, vous purifiant de vos œuvres mortes et effaçant la mémoire de vos erreurs affligeantes. C'est ce que j'attends avec impatience. Il est très difficile de se tenir devant Dieu avec le souvenir de ses péchés. Cela ne peut se faire qu'en s'attachant au sang de Jésus, qui a payé pour vos péchés graves. Je l'ai fait une fois, c'était difficile, mais il m'a aidé. Quand le Seigneur asperge son sang sur votre conscience, l'agonie du rappel disparaît, alors vous pouvez vous tenir devant Dieu comme un véritable homme, plutôt que comme un ver, mais cela ne peut arriver qu'après avoir été purifié. La douleur a diminué après quelques semaines, et j'ai entendu le Seigneur dire simplement « Ce sera moi maintenant ». Je savais donc qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, je ne comprenais simplement pas exactement pourquoi. J'ai lu ce que Pierre et Paul ont dit « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve de feu qui vient pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous soyez aussi dans la joie avec une allégresse débordante. 1 Pie 4:12-13 Pendant un peu de temps, si cela est nécessaire, vous avez été attristé par diverses épreuves, afin que l'authenticité de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoiqu'éprouvée par le feu, se trouve tournée en louange, en honneur et en gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pie 1:6-7 Car le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il châtie tout fils qu'il accueille. Endurez vos épreuves avec souffrance comme une discipline, non une punition, mais un entraînement de Dieu pour améliorer votre vertu. Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous les vrais fils de Dieu doivent participer, alors vous êtes illégitimes et non des fils. Hébreux 12:6-8 Je ne savais pas si j'étais puni pour toutes les choses stupides que j'avais faites ou si je traversais la tribulation. Je n'ai jamais vraiment compris, jusqu'à bien plus tard, que c'était la tribulation. Pour une raison quelconque, le Seigneur ne peut pas nous dire directement ce qu'on nous fait, d'une certaine manière cela viole le fait de souffrir dans la foi. Pour en savoir plus sur la tribulation, voir Christ en vous, et comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu en attendant le Seigneur. Mais maintenant, chers lecteurs, vous savez à quoi vous attendre, et lorsque vous serez affligés par une épreuve ardente et douloureuse, ne vous inquiétez pas en pensant avoir été trahis. Mais sachez plutôt que c'est pour votre bénéfice, votre croissance, l'élimination du péché, la croix qui crucifie votre nature pécheresse, la mort du moi, la perte de votre vie égoïste pour gagner votre vie selon Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans sa chair, armez-vous aussi de la même disposition, car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché. Afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais que vous viviez selon la volonté de Dieu. 1 Pie 4:1-2 Le Seigneur ne châtie que ceux qu'il aime, que sa verge et son bâton soient donc un réconfort et un rappel de son amour pour vous. Après quelques mois, la souffrance a cessé en 1982, sauf de brèves récidives comme rappel, chaque fois que j'échouais en convoitant des femmes ou même en pensant à des pensées sexuellement immorales. Au cours des années suivantes, les rappels douloureux m'ont entraîné à éviter de convoiter les femmes ou d'y penser. Mais la convoitise n'a pas été ôtée jusqu'à ce que le Seigneur me montre, en orchestrant les expériences de ma vie, que ma convoitise, comme toute convoitise, n'est qu'une illusion trompeuse. Il m'a montré que ma convoitise m'aveuglait sur les réalités du caractère d'une femme. Ce fut une leçon longue et humiliante à apprendre, mais très convaincante, très éclairante et indélébile dans ma mémoire. Puis, par la puissance de sa grâce, il a ôté la convoitise, incrément par incrément par incrément, chaque incrément étant accompagné de deuil et de supplications pour davantage de grâce. Aujourd'hui, je rapporte avec reconnaissance que la convoitise des femmes a été retirée de mon cœur, par la discipline nécessaire du Seigneur et sa grâce infinie et miséricordieuse. Rien que pour cela, je lui suis éternellement reconnaissant. Recommencé dans le monde en 1983, lorsqu'il ne me restait plus que $5,000 à la banque, je savais qu'il était temps de retourner travailler. Heureusement, un ancien patron à moi était président d'une entreprise voisine à Los Gatos, et il a accepté de m'embaucher. Mon salaire était d'environ la moitié de ce que je gagnais dans la dernière entreprise pour laquelle j'avais travaillé. J'ai acheté une voiture d'occasion, 2 costumes chez J.C. Penney, et je suis retourné au travail. En descendant le flanc de la montagne vers San José ce premier jour, j'ai éclaté en sanglots, me sentant comme si j'avais échoué dans ma quête de Dieu. Mais je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je sais que je n'aurais jamais dû quitter mon emploi. Le Seigneur veut que nous soyons honnêtement employés, contribuant à la création. J'aurais dû simplement chercher un autre travail, et attendre et écouter le Seigneur pendant mon temps libre. Je suis certain que j'aurais progressé plus vite et plus facilement. J'écris cela pour votre bénéfice. Comme nous avions l'habitude de dépenser très peu d'argent, en un an j'avais économisé presque $20,000, la moitié de mon salaire brut. J'ai travaillé très dur et j'ai aidé l'entreprise à devenir rentable pour la première fois en plusieurs années d'existence. Il y avait de sérieux problèmes dans leur plan et j'ai commencé à parler trop fermement contre leur refus de traiter ces problèmes. Le Seigneur m'a dit, « Sois un serviteur bon et loyal », mais j'étais trop plein de volonté propre et j'ai continué mes remarques critiques. J'ai compris que les choses arrivaient à un point de rupture et j'ai commencé à chercher un autre emploi. Un jour à midi, on m'a proposé un autre poste. À 16h le même jour, j'ai été licencié et avec le recul à juste titre. J'avais désobéi à l'ordre du Seigneur. Je peux profondément compatir avec quiconque est licencié. On a l'impression d'avoir reçu un coup de pied dans le ventre, détruisant toute confiance en soi. Après avoir rejoint la nouvelle entreprise en 1984, j'ai réalisé que j'avais commis une autre erreur. Sans un produit largement demandé, leur survie à long terme était très douteuse, ils ont fait faillite environ 3 ans plus tard. Alors j'ai dit à ma femme que je devais soit créer ma propre entreprise, soit que bientôt je regarderais des emplois tout en bas de l'échelle. Dans ce travail, j'avais identifié l'absence d'une solution à bas coût pour fournir une fonction nécessaire. J'ai décidé d'essayer de fournir cette solution en écrivant un programme informatique unique pour faire le travail sur un PC ordinaire et une imprimante matricielle. J'ai donc acheté une imprimante et un PC et j'ai commencé à programmer une solution. N'ayant pas écrit une ligne de code depuis 17 ans, je n'étais pas très compétent. J'ai buté sur un problème sur lequel j'ai travaillé pendant des semaines en essayant de le résoudre. Chaque soir et tout le week-end, je travaillais sur ce seul blocage. Mon fils très brillant est rentré un soir, m'ayant vu lutter quotidiennement avec ce problème pendant de nombreuses semaines, et il a dit « Laisse tomber, papa, c'est sans espoir ». J'ai persévéré et j'ai finalement une percée, mon programme fonctionnait. J'ai mis une annonce dans un magazine et ma femme s'est occupée des quelques demandes et ventes pendant que je continuais mon occupation à plein temps. Finalement, l'intérêt pour le produit était tel que je devais faire un choix, faire ce qui étonnait et démissionner pour m'y consacrer à plein temps, ou essayer de minimiser le conflit d'intérêts. J'ai démissionné en 04-1985 avec un grand espoir, me consacrant à plein temps à ma petite société de logiciels, travaillant dans ma salle à manger. Une fois passé à plein temps, j'ai commencé à voir d'autres opportunités et j'ai commencé à écrire de meilleurs programmes, plus fonctionnels. 5 mois plus tard, ma femme faisait des chèques et elle m'a dit que nous étions descendus à 2 000 $ à la banque. Je lui ai dit de me prévenir quand il ne resterait plus que 1 000 $, et je prendrais un travail de chauffeur de taxi la nuit pour soutenir la poursuite de notre petite entreprise. Un après-midi de week-end, j'attendais Dieu, et j'ai entendu le Seigneur dire « Rends le grand ». Environ 2 semaines plus tard, le lendemain de la fête du travail, nous avons fait 1 000 $ de ventes en une journée, les ventes de logiciels avaient environ 95% de marge brute. Nous avions franchi un cap et nous étions rentables, avec un flux de trésorerie fortement positif. J'ai commencé à écrire des programmes encore meilleurs, dont l'un avec une capacité qui n'avait jamais été écrite auparavant. Le Seigneur a encouragé mes efforts, me disant que je réussirais dans ma tentative. Le programme a réussi. Nous avons fini par vendre plus de 300 copies de ce programme par mois. De notre activité de garage-atelier, nous avons transféré l'entreprise de notre maison en location vers un bureau loué de 2000 pieds carrés à quelques rues de là. Notre entreprise était dirigée selon les enseignements du Christ, tels qu'ils s'appliquaient à notre activité, affichés au mur afin que tous les employés les voient et s'en souviennent. J'étais très heureux, travaillant 100 heures par semaine, mais reconnaissant de pouvoir diriger une entreprise qui faisait de l'observance de la règle d'or sa première priorité, envers nos clients, fournisseurs et collègues employés. Et en suivant sa règle, nous ne devions rien à personne, si ce n'est une dette d'amour. Nos clients logiciels ont commencé à nous demander du matériel lié au logiciel que nous vendions. Nous avons commencé à acheter et à revendre du matériel d'un fabricant en France. Les exigences en termes de capacité matérielle et de volume nous ont poussés à chercher un autre fournisseur, que nous avons trouvé à Taïwan. Nous avons commencé à acheter en volume auprès d'eux et à spécifier les capacités que nos clients demandaient. Après avoir apporté de nombreuses modifications de produits que nous avions demandées, le fabricant est devenu peu réactif. J'ai donc décidé de franchir l'étape de fabriquer nous-mêmes. En suivant la règle d'or, j'ai estimé que je devais prévenir à l'avance le fabricant de notre intention de cesser d'acheter chez lui, lui laissant le temps de trouver d'autres clients. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire, car je savais que je serais probablement en concurrence avec le produit que j'avais largement conçu. Mais j'ai informé le représentant de notre intention, en lui offrant même la possibilité d'acheter chez nous, à notre prix de revient, un composant connexe crucial, afin de l'approvisionner pour ses autres clients, jusqu'à ce qu'il puisse finaliser son propre achat. Je lui ai demandé si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, lui proposer d'offrir un emploi à son programmeur firmware, qui était très coopératif, compétent et réactif. Il a répondu que ce programmeur ne travaillait pas directement pour lui, qu'il n'était qu'un sous-traitant, et que je pouvais parler librement avec lui. Quand j'ai parlé au programmeur firmware, il a compris immédiatement et a accepté de venir travailler pour moi et aussi d'obtenir une licence non exclusive du code source qu'il avait développé auparavant, ce qu'il a négocié avec succès pour 5 000 $. Ainsi craindre un désastre, mais suivre la règle d'or sans tenir compte de pertes potentiellement catastrophiques, a abouti au plus grand gain commercial de ma vie et à un programmeur firmware très précieux. Nous étions rapidement dans le secteur de la fabrication de matériel. Nos ventes de matériel ont soudainement augmenté de 300%. Dire la vérité jouera toujours en votre faveur, aussi risqué que cela puisse paraître. Je me souviens du moment où j'avais accumulé ma première grosse somme d'argent. J'essayais de décider si je devais la donner alors à une œuvre caritative ou attendre jusqu'à ce que je puisse mieux entendre et donner à ce que le Seigneur me dirait. J'ai entendu sa voix dire « Si tu ne la donnes pas maintenant, tu n'y arriveras jamais, mon fils. » Les bénédictions matérielles du Seigneur, les ventes de matériel, ont rapidement dépassé les ventes de logiciels. Nous sommes devenus une entreprise informatique matérielle et logicielle très prospère. J'avais été rendu grand. Coïncidence, rappelez-vous plus haut, en attendant Dieu, j'ai entendu le Seigneur dire « Rends-le grand ». En 1993, mon entreprise a emménagé au deuxième étage de 13 000 pieds carrés du bâtiment qui avait été construit sur le site de l'abattoir, celui au sujet duquel j'avais brandi mon poing contre Dieu, déclarant l'injustice de ma vie et mon envie de ceux qui pouvaient travailler dans un si beau bâtiment. Coïncidence, des années auparavant, je me souviens avoir fait du jogging depuis ma maison en location jusqu'au trottoir au bord de l'océan, passant chaque jour devant plusieurs entreprises en chemin. Je me souviens avoir pensé, les gens qui travaillent ici doivent être les plus chanceux du monde, vivant dans une ville au bord de l'océan et ayant un lieu de travail si proche. Il y avait un terrain vague entre deux de ces entreprises. Sur ce même terrain, en 1998, mon entreprise a emménagé dans un nouveau bâtiment de 10 600 pieds carrés que nous avons conçu et fait construire, sans dette, en le payant sur la trésorerie courante. Coïncidence. En faisant du jogging chaque jour le long de la promenade au bord de l'océan, il m'arrivait souvent de passer devant un sentier boisé avec un ruisseau le long, menant à une zone résidentielle. Je me souviens avoir pensé que les gens qui vivent là-haut sont très chanceux. Quelques années plus tard, en 1989, sur ce même sentier, nous avons fait construire sur mesure une maison neuve, désormais sans hypothèque. Je fais du jogging en montant et en descendant ce sentier chaque jour, sur mon chemin vers et depuis le trottoir en bord d'océan. Coïncidence, je ne me vante pas. Je vous dis simplement qu'après avoir perdu presque tout, en commettant des erreurs en essayant de suivre par la foi, Dieu a pourvu au centuple en retour et m'a donné tout ce que j'avais souhaité, n'osant même pas prier pour cela, tant que c'était bon pour moi. Réfléchissez-y. Dieu veut que nous ayons le maximum de bonheur possible sur cette terre, et il ne manquera pas de faire en sorte que nous l'ayons, pourvu qu'il sache qu'une chose ne servirait pas nos convoitises ou notre orgueil, il veillera à ce que nous ayons les bonnes choses de cette vie. Mais tant que nous n'aurons pas montré notre dévouement à Dieu et notre renoncement à nos convoitises égoïstes, il ne nous bénira pas matériellement. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est digne de confiance, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est fidèle, Dieu est tout, au-dessus de tout, à travers tout, et en vous tous. Il est aux commandes, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, sans violer notre libre arbitre. Je vais vous dire un secret, si vous cherchez Dieu, il n'y a pas de coïncidence, chaque détail de votre vie est arrangé astérisque, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même les choses apparemment mauvaises qui nous arrivent sont là pour nous réveiller ou pour nous aider à grandir. Les injustices sont là pour que nous pardonnions, car à mesure que nous apprenons à pardonner, nous grandissons en amour, nous grandissons en piété. Nous devons apprendre à vivre dans la forteresse de la foi, avec la foi et la confiance que Dieu contrôle tout, et qu'il nous revient d'être aussi obéissants que nous savons l'être, en particulier en pardonnant toute injustice afin de grandir. Astérisque de la parole du Seigneur au-dedans, si des gens veulent prendre une décision de mauvais choix, c'est leur prérogative. Donc, ne croyez pas que Dieu ait amené quelqu'un autour de vous à faire quelque chose de mal qui vous affecte. Il protège votre vie afin que vous puissiez être achevé, mais il n'empêche pas ceux qui vous entourent de faire le mal. Pendant les 15 années suivantes, 1988 à 2003, le Seigneur m'a dit de ne lire rien d'autre que les lettres et le journal de George Fox, ce que j'ai fait. Je lisais une lettre ou deux à voix haute à ma femme chaque matin au réveil. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais préparé à produire ce site web. J'avais souvent pensé à publier les écrits de George Fox sur le web, mais l'une des propres lettres de Fox conseillait de ne rien publier, à moins que cela ne soit commandé par le Seigneur, je n'y ai donc jamais sérieusement pensé. Après avoir lu ces merveilleux écrits pendant 15 ans chaque jour, quand je suis revenu à la lecture de la Bible, elle a commencé à avoir du sens sans devoir ignorer les Écritures appelant à la sainteté, à la perfection, à la pureté, à voir Dieu, à être transféré dans le royaume, etc. La parole du Seigneur au-dedans a dit, « Par le passé, seuls les vivants connaissaient la vérité des Écritures, foi secrète, salut secret, justification secrète. » Même après avoir appris par les écrits de George Fox, J'étais encore dans l'obscurité sur la plupart de ces secrets jusqu'à ce que le Seigneur les révèle après que j'ai commencé à écrire le site. Je me souviens que je venais de finir d'écrire la page « Jésus veut vous enseigner lui-même » que le Seigneur avait qualifié de coup de circuit, et plus tard, alors que je lisais celle de James Pownell, « Christ ou l'Écriture règne-t-il ? » J'étais attristé par la médiocrité de mon écriture comparée à la sienne, lorsque le Seigneur m'a dit « Parfois ce qui est écrit d'un point de vue terrestre est plus facilement compris que ce qui est céleste. » Il a aussi dit « Tu es capable de communiquer avec les moins instruits. Pourquoi révèle-t-il maintenant pour la première fois au monde les secrets des Écritures ?» Je crois que c'est afin qu'un nombre significatif de personnes puissent entrer simultanément dans le royaume, pour devenir ensuite une éclosion généralisée qui choque soudain le monde et le tire de son sommeil de mort. Nous approchons de la fin de l'âge, et la moisson finale sera glorieuse comme il l'a dit. Cette fois, lorsqu'elle apparaîtra, elle viendra en grande puissance. La Pentecôte moderne approche rapidement, quand le bras est découvert, son bras est resté voilé depuis les apôtres. Ce sera l'Église la plus puissante jamais vue, avec aussi les plus grands châtiments. C'est le jugement de Dieu que des apôtres soient envoyés dans le monde. Il y aura de nombreux sites dans chaque langue. Il a un plan merveilleux, impétueux, pour ôter de la terre le voile d'incompréhension, et que nous sommes sur le point de voir. La première éclosion du christianisme fut par Christ et les disciples originaux, à l'apogée de l'Empire romain, avec des routes, des transports et un courrier permettant la liberté de mouvement et d'information. La deuxième éclosion du christianisme a eu lieu, avec les premiers Quakers, quand il y avait des presses d'imprimerie dans la plupart des grandes villes, permettant aux Quakers de diffuser rapidement leur évangile et leur espérance. La troisième éclosion, permanente, du christianisme se fera par le web mondial, permettant au monde de lire pleinement l'évangile et l'espérance détaillée, complet, non filtré, non coupé, non édulcoré sans extrait tel quel. Durant la plupart de ces années, à quelques exceptions de quelques jours près, j'ai continué à me lever à 4-5 h du matin pour attendre silencieusement le Seigneur, et la plupart des week-ends étaient consacrés à l'attente. Maintenant je me lève à 3 h du matin. La récompense intermédiaire, le scellement du Saint-Esprit à l'été 2005, ma femme a été ramenée à l'attente en Dieu, cette fois avec une intensité qui dépassait tous ses efforts passés. Elle a attendu toute la journée. Quand les choses ralentissaient au bureau, j'ai commencé à prendre du temps pour attendre aussi. Pendant les vacances de Thanksgiving 2005, j'ai décidé de faire une poussée intense. J'ai acheté du café bien fort et je me suis assis pour attendre continuellement, sauf pour les nécessités physiques. Vers la deuxième ou la troisième nuit, j'ai été réveillé et on m'a dit de monter à l'étage et d'être fort. J'ai été confronté à un temps d'épreuve surnaturelle, très intense, très douloureux. Cette fois, je ne me suis pas mis en colère, je ne suis pas devenu tamé et je ne suis pas tombé dans le piège. Il y avait une tentation contre laquelle je luttais depuis des années, je n'y ai jamais cédé, mais je l'ai souvent envisagé. Je rationalisais souvent sa possibilité avec une logique tordue. Durant cette épreuve, les voix ont utilisé cette logique pour tenter de me persuader d'aller au bout de ma tentation. Elles ont aussi pris le contrôle de mon cœur, le faisant monter à environ 200 battements par minute, tout en infligeant une douleur intense. Cet appel et cette douleur ont duré plusieurs heures. Malgré une logique presque parfaite, l'effet net était de violer l'une de ces lois morales. J'ai donc refusé. J'ai souffert, refusé, souffert, etc. Chaque fois que je refusais, la douleur empirait. On m'a menacé de mort si je ne me conformais pas. On m'a menacé d'être abandonné dans ma quête spirituelle, en étant déplaisant au Seigneur pour avoir été si lâche. On m'a menacé de l'enfer comme conséquence de la désobéissance. J'ai finalement maintenu, au fil de plusieurs itérations, que si je devais mourir et être envoyé en enfer pour avoir désobéi, alors j'en étais très désolé, mais je choisissais de subir le jugement, au moins en sachant que j'avais essayé de faire ce qui est juste. J'ai refusé d'adhérer à toute direction qui était un péché tel que défini dans les Écritures, choisissant de mourir si nécessaire, et croyez-moi, la possibilité était réelle selon la pensée médicale conventionnelle. Après plusieurs heures, l'épreuve s'est arrêtée lorsque j'ai entendu les mots « C'est assez, peu d'hommes pourraient supporter ce qu'il a enduré ». C'est alors que j'ai été présenté au Père, ce dont vous pouvez lire le récit dans « Y a-t-il de l'espoir pour tous ?». Ce fut la plus grande expérience de ma vie. J'ai aussi reçu une augmentation significative de l'Esprit du Seigneur, le scellement du Saint-Esprit. J'étais rempli d'amour pour mon prochain, j'étais clairement différent. Pour beaucoup d'activités, en particulier l'usage de l'ordinateur, c'était comme s'il fallait réapprendre à tout faire, très étrange. Cette étape de mon parcours est décrite dans mon écrit sur la récompense intermédiaire, et c'est le scellement du Saint-Esprit. Au cours des années suivantes, j'ai été périodiquement soumis à la même accélération de mon rythme cardiaque, mais sans la douleur, seulement de l'inconfort. Une fois, ce cœur qui s'emballait a continué pendant 5 jours, se calmant rarement. Les cardiologues vous diront que c'est une contrainte impossible à survivre pour le cœur. Comme cela continuait d'arriver, particulièrement après avoir reçu un email menaçant de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le site web, j'ai commencé à louer Dieu, le remerciant de me rendre digne de la persécution, ce qui entraînait généralement l'arrêt peu après. Du début de mon parcours jusqu'à ce point du récit, plus de 30 ans se sont écoulés. Était-ce nécessaire? Si je n'avais pas commis les erreurs que j'ai commises et échoué misérablement la première fois, aurais-je terminé plus rapidement? Je le soupçonne, oui, mais je n'en sais rien, et tout est bien qui finit bien. Conformément aux instructions claires et insistantes du Seigneur, je ne regarde pas en arrière en agonisant sur tous mes échecs passés, à part la douleur d'écrire ce récit, que le Seigneur m'a ordonné d'écrire. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais bien, je suis en paix, ma femme va bien et est en paix. Nous avons l'un pour l'autre un amour plus grand et plus élevé que jamais. Mes deux fils dirigent tous deux l'entreprise que j'ai fondée, et ils en sont désormais entièrement propriétaires. Nous sommes à la retraite et totalement retirés de l'entreprise. Depuis ces vacances de Thanksgiving 2005, nous avons été sous la direction étroite du Seigneur. Il m'a dit de mettre en place ce site web en janvier 2006. La première année, ma femme et moi y avons chacun travaillé plus de 100 heures par semaine. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'entretenir le site, chaque minute disponible étant consacrée à attendre le Seigneur. Le Seigneur a précisé de nombreuses formulations critiques. Il a apporté des corrections fréquentes, plusieurs suppressions, et il a insisté pour que certains enseignements soient inclus, aussi controversés soient-ils. Grâce à l'ampleur des richesses matérielles qu'il nous a accordées, nous avons pu proposer ce site en 4 langues astérisque avec une promotion pay-per-click étendue, ce qui a donné environ 1,6 million de visites d'hôtes uniques par an. Après 7 ans de pay-per-click, ils ont été interrompus en 02-2013 faute de financement. Astérisque anglais, espagnol, français et chinois, en écriture traditionnelle et simplifiée. L'un des 10 lames mentionnés plus haut, que la lumière m'a expliqué, était « Le passé prédit-il l'avenir ou l'avenir change-t-il le passé ?» Il m'a été clairement expliqué par Christ, la lumière intérieure, qu'un navire peut être très loin de sa route, ce qui est un grand problème sur le moment, mais s'il change de cap et arrive à la bonne destination, le passé a été changé et devient sans importance. Ainsi, l'avenir change le passé. Je soupçonne que la lumière savait parfaitement que je devais être un tel navire. Au cours des dernières années, plusieurs choses merveilleuses nous sont arrivées et continuent de nous arriver tandis que nous attendons l'entrée dans le royaume, mais nous sommes aussi tenus d'achever les 7 épreuves ou troubles. Vous pouvez lire où nous en sommes dans notre témoignage. Apprenez de nos erreurs. Il existe une liste complète des tromperies sur la page web « Comment recevoir le pouvoir transformateur de Dieu en attendant le Seigneur ». Ne tombez pas dans les mêmes mensonges et ruses. Les écueils sont énoncés clairement avec davantage de détails, disponibles à votre lecture dans « Comment recevoir le pouvoir transformateur de Dieu en attendant le Seigneur ». Nous vous souhaitons le meilleur, un parcours rapide vers le royaume des cieux au-dedans, vivre en union avec le Christ et le Père. Connaître le fruit de la justice, qui est la paix d'une tranquillité et d'une assurance éternelle, voir la gloire et la puissance de Dieu, être rempli de la joie du Seigneur et de son amour parfait, et demeurer continuellement pour toujours dans leur présence. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de Dieu, dont jouissent en mesure croissante ceux qui entendent et obéissent à la parole de Dieu au-dedans. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.